Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques jours, Sens Créatif fêtera sa 5e bougie lors d'un épisode d'anthologie enregistré en public à la Slow Gallery à Paris à partir de 19h. Avec un casting 5 étoiles dont le joyeux duo Grosduc et Boucard, le talentueux Pierre-Emmanuel Lillet et la luxuriante Yukiko Noritake. Sans oublier la petite rétrospective sur l'histoire de Sens Créatif en deuxième partie. On espère vous y voir très nombreux. Et comme on ne fait jamais les choses à moitié, en guise de compte à rebours, nous avons le plaisir de vous annoncer que chaque jour jusqu'au 6 décembre, nous rendrons public les 6 épisodes des Keepers of the Keys qui étaient précédemment une exclusivité pour les membres du Patate Club. On espère que ça vous plaira et on compte sur vous pour être nombreux et nombreuses lors du live enregistré à la Slow Gallery le 6 décembre prochain. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss.
Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee.
Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, au live mensuel exclusif avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance.
Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode des Keepers of the Keys.
Oh, c'est bien dit.
Bien dit, t'as vu, je suis passé en Angleterre quand même. Les gardiens des clés en français. Un épisode mensuel exclusivement réservé aux membres du Patate Club qui nous soutiennent sur Patreon et Tipeee. Dans cette émission, une fois par mois, nous allons à la rencontre d'un DA, d'un galeriste, d'un éditeur ou une éditrice, évidemment, ou d'un agent pour qu'il nous emmène dans les coulisses de son métier et pour vous permettre à vous, les contributeurs de Sens Créatif, de leur poser toutes vos questions.
Ce qui serait pas mal, Jérémy, c'est de rappeler que nous-mêmes, en fait, on a un agent. Oui. Et depuis quelques années, un peu plus longtemps pour moi. Donc, en fait, c'est une expérience qu'on a tous les deux. Et du coup, on aura des questions aussi à poser à notre invité qui seront à mon avis pertinentes parce qu'on aura eu cette expérience là.
Ouais, on pourra parler d'expérience tout à fait, mais c'est trop intéressant d'avoir le point de vue d'un insider. Et justement, sans plus attendre, nous sommes heureux d'ouvrir le bal cette année des Keepers of the Keys avec Philippe J. Clay, agent d'illustrateur chez Costume 3 pièces. Bienvenue sur le podcast, Philippe. On est ravis que tu sois avec nous aujourd'hui.
Bienvenue, Jérémy. Merci beaucoup. Merci, merci Jérémy. Merci, Laurent. C'est une première pour moi. Je suis un peu ému, hein, l'émotion. On voit qu'on est en direct et on est content.
C'est vrai, c'est la toute première fois que tu passes sur un podcast.
Oui. Okay. C'est la première fois. En général, on est plutôt discret. Ouais.
Ouais, c'est l'agence qui est la star et vous êtes les petites mains, c'est ça?
On essaie d'être un peu derrière, ouais. En effet. C'est un peu ça. On essaie de peut-être moins se mettre en avant et plus mettre en avant nos auteurs. Mais enfin, après, voilà.
C'est un bel état d'esprit, je trouve. Alors. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, vu que Philippe, tu es un peu mystérieux, est-ce que tu peux brièvement te présenter et nous dire ce qui te motive à sortir du lit le matin?
Il y a beaucoup de choses, parce que je suis assez curieux de tout. Donc, je ne sais pas, je peux dire que la chose qui me botte en ce moment, et ça paraît complètement hors contexte, mais je tombe dans l'apiculture. Alors, je suis très content d'essayer d'entrer dans quelque chose d'un peu étrange comme ça, voilà.
T'as une ruche au-dessus de chez toi ou dans ton jardin?
Dans mon jardin, là, je suis en préparation. En fait, je démarre. J'avais cette idée depuis très très longtemps, et là maintenant, je m'implique complètement. Je vais avoir deux ruches, mon jardin. Oui, c'est ça, pour essayer de faire vivre ces petites abeilles, voilà, m'occuper de ça pendant un petit moment. Donc, j'ai rencontré des gens, des différents acteurs. J'ai pas fait
tout un monde.
Voilà, je suis allé rencontrer des gens qui produisaient et qui produisaient différentes échelles et puis voir à quelle était la chose qui me convenait. Et comme moi, je suis un amateur, et que j'aime le miel par-dessus tout. Voilà, je suis parti là-dedans. Donc, c'est une des choses qui me motive le matin. Il y en a beaucoup d'autres. Voilà.
En plus de 90 épisodes, j'ai jamais eu cette réponse.
Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Ouais.
C'est le miel et tes petites abeilles. Trop bien.
Tu vois, c'est chouette.
Et du coup, quand tu te présentes, tu te dis que tu es amateur de miel ou tu dis autre chose habituellement?
Quand je me présente, je dis plutôt que je suis... enfin, en général, tu sais, la présentation sociale, elle se fait à travers le métier. En général, c'est les questions qui arrivent très, très rapidement. Donc, je me suis beaucoup amusé à essayer de dire des bêtises ou essayer de m'inventer un personnage autour d'autres manières, d'autres choses pour travailler. Enfin, voilà, d'autres métiers, etc. Mais finalement, oui, maintenant, je dis que je suis agent. Ouais.
Ouais.
Agent d'illustrateur, voilà. Mais les gens me posent toujours la question, mais agent comment? Agent d'illustrateur, voilà. C'est un métier qui n'est pas très connu finalement. Le métier d'agent, il était un peu popularisé parce qu'on a vu une série récemment sur les agents d'acteurs, voilà, c'est ça, qui a plutôt bien fonctionné, qui a ouvert un peu les gens sur ce métier. Sinon, le métier d'agent sportif a été bien connu aussi.
D'accord. Oui, c'est vrai que c'est carrément un métier de niche et. Ils sont pas toujours faciles d'accès, donc c'est pour ça qu'on est très heureux de développer ces émissions pour pouvoir soudainement un peu défricher ces métiers un peu mystères qui sont aussi souvent fantasmés.
C'est vrai.
Et aussi l'occasion d'en savoir un peu plus sur justement les êtres humains derrière ces métiers fantasmés, parce que vous pouvez parfois devenir voilà un peu cette image d'Épinal, mais en fait vous êtes tous différents. Et donc, du coup, on va plonger un petit peu dans ton histoire, Philippe, si tu le veux bien. Est-ce que, avant de plonger dans tout ce qui est agent d'illustrateur, etc., tu pourrais nous parler un peu de ton arrière-plan personnel et de ton parcours avant de découvrir le monde de l'illustration?
Oui. Ben, en fait, moi, j'ai eu un parcours un peu particulier, potentiellement, on peut dire un peu atypique, si ce n'est que pour devenir agent d'illustrateur, je suis pas certain qu'il y ait une vraie voie royale. Il n'y a pas d'école de formation, ce genre de choses. Donc, c'est un peu des parcours qui souvent... flirte avec l'illustration d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'on est amateur, soit parce qu'on a une pratique personnelle, ce genre de choses. Alors pour ma part, c'était que j'ai eu une pratique personnelle, je dessinais beaucoup, j'aimais ça, j'aimais le dessin, j'hésitais un peu à montrer les choses, et puis c'est pas vraiment la chose que j'avais en tête pour faire mon métier. En tout cas, je pensais pas devenir illustrateur ou ce genre de choses, mais j'avais une pratique personnelle. J'ai fait des petites choses quand j'étais plus jeune, je sais pas entre je pense 15 et 22 ans, j'ai fait des petites illustrations dans ça a commencé dans le journal du lycée, du collège et puis et puis après des petites opportunités que j'ai pu avoir au fur et à mesure avec des commandes de plus en plus intéressantes, on va dire. Voilà, et puis ensuite j'ai dû, après le bac, j'ai dû faire des études comme tout le monde, comme beaucoup. Venant de province, j'ai pas eu forcément beaucoup d'opportunités, en tout cas de choix. et je suis allé, on devait s'exporter soit dans les villes proches, c'est-à-dire Reims ou Paris. Voilà, j'ai choisi d'abord d'aller à Reims dans un premier temps pour commencer un cursus en psychologie. Voilà. D'accord. Et puis je suis rapidement allé à Paris parce qu'en fait le cursus se prolongeait pas à Reims et donc je suis arrivé à Paris et j'ai commencé à faire un double cursus en psychologie et art plastique. Voilà. Donc j'ai quand même gardé cette idée de pratique et d'art.
T'avais une spécialité en psychologie?
Non, je faisais de la psychologie clinique, enfin une spécialité, on peut pas vraiment dire spécialité parce que quand on démarre les études en général, on a une
c'est tronc commun.
C'est tronc commun, ça va du général à un truc plus particulier. Et donc je suis arrivé à Paris et j'ai fait ce double cursus donc en psychologie art plastique et art plastique en fait deux voies différentes, mais l'art plastique il est venu aussi parce qu'à un moment ça me titillait de voir ce que mon dessin pouvait valoir, enfin ce que je pouvais valoir dans ma pratique, une espèce de confrontation pour une première fois à des concours, et j'ai passé le concours des Beaux-Arts de Reims, et celui de Paris aussi, et bon, j'ai eu le concours, en fait, mais j'y suis pas allé parce que bon, voilà, ça faisait sans doute un grand saut pour moi entre mes études à Reims et aussi faire un saut à Paris, en fait, pour arriver à se trouver un emploi, une chambre, enfin voilà, c'était un peu le petit provincial qui débarque à Paris avec un peu le stress de savoir comment ça va se passer pour lui. Donc je me suis orienté plutôt vers la fac d'art plastique qui m'a permis d'avoir ces deux cursus et aussi quelque chose d'un peu plus sécurisant J'imagine pour mes parents, le fait de faire de la psychologie en se disant peut-être qu'il trouvera quelque chose d'un peu stable. Voilà, c'est ça. Un vrai métier. Ouais. Et aussi, ça m'a permis d'avoir de cumuler des petits emplois pour payer mes études, tout simplement. Donc voilà. Donc j'ai monté ces deux cursus-là. En me disant, au fur et à mesure des années qui passaient, de me dire que j'allais sans doute devenir enseignant d'art plastique.
Ah oui, ok.
Au fur et à mesure, ouais. Ouais. Donc j'ai fait 4 ans dans les deux disciplines, et puis j'ai eu 2 maîtrises en fait. Et ensuite, j'ai commencé à préparer à Paris 1 le CAPES et l'agrégation.
Ouais.
Et puis j'ai préparé ces concours de manière très assidue pendant une année où je me suis mis dans une tour d'ivoire, j'ai fait quasiment que ça. Et puis je suis allé au concours et là je pense que pour la première fois j'ai eu une bonne gifle sur le résultat des du concours. Ouais, c'était un peu particulier, ouais. Ouais, je me suis pris une bonne veste en tout cas. Bon, pour l'agrégation, évidemment, j'étais très très loin, mais le pourcentage de réussite, je crois, en art plastique, il est toujours très très bas, donc il était déjà très bas à l'époque. Bon, il y a beaucoup de gens qui postulent, mais il y a peu de gens reçus.
Ouais,
en tout cas, voilà. Mais pour le CAPES, je pensais vraiment que j'avais une bonne chance, quoi. Voilà. Et là, j'ai quand même pris une bonne note qui m'a bien plombé. Donc, je me suis dit que j'allais le repasser l'année suivante, parce qu'en général, on le passe 2 fois. Et puis en fait j'ai un ami qui passait lui le concours de professeur des écoles et il m'a demandé de l'emmener en voiture parce qu'il n'avait pas de voiture à l'époque pour son concours. Donc j'ai fait l'aller-retour et je lui ai dit bon ok je vais bien t'emmener etc. Moi j'étais dans ma préparation de concours à ce moment-là et il m'a dit bah écoute tu veux pas toi tu vas pas rester là à m'attendre, tu viens et puis je t'inscris à ce concours. Il m'a dit ça te fera un petit échauffement pour ton épreuve. Et
c'est comme les potes qui t'inscrivent à Koh-Lanta,
c'est un petit peu ça, ouais. Ça, tu te retrouves un peu embringué dans un truc et en fait finalement il m'a inscrit et puis j'ai passé ce concours contre toute attente et je l'ai eu, figure-toi. Voilà, j'ai eu ce concours que au départ je ne voulais pas passer. Voilà, donc je me suis retrouvé soudainement à être enseignant, donc professeur des écoles primaires. Ce genre de choses.
Ah ouais, c'est drôle. Voilà. On soupçonnerait pas, quoi.
Non, et t'as fait ça pendant combien d'années, alors?
Et finalement, j'ai fait ça pendant un bon moment, parce que je me suis dit, je voulais être professeur d'art plastique. Finalement, l'enseignement, c'est pas mal. Puis je pense que je suis quelqu'un qui aime assez bien enseigner. Enfin, en tout cas, ça correspondait à quelque chose que j'aimais faire à ce moment-là. Donc, j'ai été enseignant, on va dire, je crois, une petite quinzaine d'années, je crois. Quelque chose comme 13, 14 ans, quelque chose comme ça.
Ah oui.
Ouais.
Ah, rien à voir. Enfin, je veux dire, avec ton métier aujourd'hui.
Non, rien. Enfin, finalement, pas rien à voir complètement, mais il y a quelque chose un petit peu de. Ouais, il y a des passerelles.
T'inquiète, toujours.
Voilà, donc j'ai fait ça pendant un petit moment, et puis ensuite je me suis dit bon, ayant fait quand même le tour un peu des niveaux différents, j'ai travaillé dans beaucoup d'écoles à Paris, beaucoup d'endroits. J'ai même travaillé dans un lycée qui faisait de la formation, enfin un collège qui faisait de la formation au métier d'art. Qui se trouve dans le 5e, qui est rue du Pont de l'Audi, qui existe toujours d'ailleurs, où les élèves sont formés pour être encadreurs, ce genre de choses. Enfin, voilà. Donc ils font de la sculpture, tout ça, c'était intéressant. Et moi, je faisais l'enseignement général là-bas. Voilà. Puis après, j'ai eu les niveaux, un peu tous les niveaux. Et puis ensuite, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal d'essayer de faire évoluer ma carrière. Voilà. Enfin, de la faire avancer, en tout cas. Mmh. Et puis, comme la carrière des enseignants en général à Paris, c'est, en tout cas dans le primaire, c'est où tu deviens directeur, où tu deviens maître formateur ou inspecteur, ce genre de choses. C'était pas des carrières qui m'intéressaient spécialement. En revanche, je voulais continuer à être un peu intéressé par, j'étais un peu intéressé encore par toutes les choses de l'art ou ce genre de choses, des projets autour de ça. Et il y a potentiellement un poste qui s'est libéré, qui allait se libérer à la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, bien connue de beaucoup de gens. Et c'était un poste où
il faut être artiste et français pour bien connaître. Mais quand t'es artiste et français, tu connais très bien.
Tu connais bien, voilà, c'est ça. Et là, il y avait un poste qui se libérait, une espèce de poste un peu particulier. Je me souviens. J'avais appris ça par le rectorat, donc je suis allé vous rencontrer, passer quelques entretiens, et on m'a dit que c'était plutôt bien et que si le poste se libérait effectivement, je serais le premier sur la liste. Donc j'étais très content, en me disant tiens, ça va ouvrir quelque chose d'un peu différent pour moi. Et puis finalement, le poste ne s'est pas libéré. En revanche, le monsieur qui m'avait fait passer des entretiens m'a dit malheureusement ça s'est pas libéré, mais ce que je vous conseille quand même. c'est de densifier un petit peu votre cursus scolaire, en quelque sorte, enfin, de diplôme, écrivez des articles, faites parler de vous, etc. Essayez d'avoir des productions, des parutions, ce genre de choses. Passer des diplômes supplémentaires. Donc, du coup, je me suis dit, oui, bah, tiens, pourquoi pas repasser des diplômes. Donc, je suis reparti à Sancier pour faire une maîtrise dans ce qui démarrait et qui commençait à s'appeler médiation culturelle. En fait, là, ça s'appelait de manière très pompeuse conception et mise en œuvre de projets culturels. Conception et mise en œuvre de projets culturels. Voilà. Donc, j'ai repris ça à partir de la première année pour aller jusqu'en maîtrise. Enfin, à l'époque, c'était sanctionné par une maîtrise. C'était le diplôme des 4 ans. Et pour donc la petite histoire, en me disant, bon, voilà, ça me fera un diplôme de plus. Et je le faisais en travaillant. C'est-à-dire que j'allais après mes cours, après l'école, à Sancier. C'était assez sympa. Ça m'aérait un peu la tête. C'était drôle.
T'es en formation constante.
Ben, c'est ça. Bon, j'avais du temps libre, en fait. Voilà.
Mmh. Et t'avais quel âge à ce moment-là?
Si tu fais le calcul que je suis agent depuis bientôt 17 ans. Je pense que je pense que ça doit faire 18 ans, 19 ans. Donc j'avais quel âge maintenant j'ai 55 ans.
Ah oui.
C'est quand même un bon petit moment. Ouais.
Donc t'as vraiment fait une bifurcation professionnelle, repris des cours et reformé et tout à une trentaine d'années quoi.
Ouais, c'est ça. Mais quand tu travailles et que t'es content et que t'as du temps libre, parce que en étant enseignant, quand tu travailles depuis un certain temps, quand même malgré tout, je devrais pas trop le chanter, mais
une si forme de lassitude.
C'est ça, mais aussi surtout, tu t'organises suffisamment correctement pour avoir quand même pas mal de temps libre. Donc voilà, le mercredi après-midi, t'es dispo quand t'es professeur des écoles, tu termines à 16h30. Si tu t'organises bien pour tes préparations et tes corrections, je pense que tu vois. Enfin voilà, puis j'avais pas mal un bon volume de travail possible. Quoi. Ouais.
Et du coup, costume trois pièces, il rentre quand dans l'équation?
Mais costume trois pièces, il rentre rapidement après. En fait, c'est que quand j'ai validé cette maîtrise, je devais faire un stage. Voilà. Et donc, du coup, je devais faire un stage pendant les vacances, en fait, puisque j'avais un emploi. Donc, je devais faire un stage non rémunéré pendant les vacances. Donc, en juillet. Et j'avais trouvé un stage à faire au musée d'Orsay. Donc, j'étais très content, etc. Et en juin, fin juin, je suis allé rencontrer la dame qui devait s'occuper de moi au musée d'Orsay. Et puis, elle m'a montré l'endroit où je devais travailler pendant un mois. Et c'était une petite pièce en sous-sol sans fenêtre où elle m'a dit que j'allais rester là pendant un mois.
Loin des œuvres.
Quelle horreur.
Tu vois, pour faire un peu de classement de ce genre de choses. Et j'avais le temps. Je me suis dit, tant pis, je vais laisser tomber. Donc j'ai dit à la dame, malheureusement, je vais pas faire votre stage parce que j'ai pas envie de rester en bas. J'ai pas envie d'être dans la cave puni. Alors que j'avais pas besoin d'avoir de rétribution puisque j'avais un salaire, etc. Donc c'était juste pour donner un coup de main en quelque sorte, si tu veux, gratuitement, et avoir après sortir quelque chose de ça, voilà, pour faire un rapport. Donc en sortant, j'étais un peu démuni. Puis j'ai croisé une amie que j'avais pas vue depuis une éternité, qui était illustratrice, qui était devenue illustratrice. Voilà. Donc on a discuté 2 minutes, on a bu un café. Je l'ai croisée par hasard sur le trottoir et elle était chez dans une agence d'illustration et elle m'a dit, je lui dis, bah tu vois, je cherche un stage, là, je suis un peu embêté parce que je viens de laisser tomber ce truc au musée d'Orsay. Elle m'a dit, ah pourquoi t'essaierais pas de faire un stage dans une agence d'illustration? Et moi c'était un métier que je connaissais pas du tout. Donc soudain, il y avait quelque chose qui s'ouvrait. Elle était dans une agence qui était en train d'évoluer vers quelque chose qui allait plus vers la production d'animation, de films d'animation, etc. à l'époque. Voilà, et elle m'a dit, mais peut-être tu pourrais les voir. Je crois qu'il y a 2 agences qui sont bien. C'est Agent 002. Petit clin d'œil à ces deux garçons et costume trois pièces, voilà. Donc j'avais mes CV sous le bras parce que j'avais une fiche avec des trucs. Je me suis dit, bah tiens, je vais en profiter, je vais y aller directement. Donc suite au café, j'ai enchaîné direct et je suis allé voir le agent 002.
Ah ok, d'accord.
Voilà, j'ai frappé. À l'époque, agent 002 était rue de la Folie Méricourt.
C'est ça, exactement, c'est ça.
Voilà, donc je suis allé là-bas, j'ai frappé. C'est une dame qui m'a reçu en quelque sorte. Quand je dis reçu, alors c'était pas Sophie du tout parce qu'elle était pas là à l'époque, mais c'était une dame que j'ai vue qu'une fois en fait. Voilà. Et Michel Lagarde, qui est le propriétaire et fondateur de cette agence, n'était pas là. Mais en tout cas, la dame m'a reçu très très bizarrement. Alors, je ne sais pas si je dois raconter ce truc-là, mais c'était assez marrant. Elle a à peine ouvert la porte, elle avait très peur. Elle a dit mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit bah voilà, j'ai un métier, j'ai une convention de la fac, je viens faire un stage gratuitement pour vous aider pendant un mois.
Où est mon bureau?
Ouais, c'est ça. Mais elle a ouvert la porte comme ça. J'avais l'impression que j'étais à la porte d'un donjon et qu'il fallait absolument donner un mot de passe ou je sais pas quoi. Donc elle était un peu frileuse et tout. Elle m'a dit, mais non, en fait, non, mais vous êtes illustrateur, non? Vous voulez, enfin, je sais pas, elle l'a vu de manière un peu intrusive. Donc voilà, je lui ai dit non, bon bah voilà, j'ai laissé mon CV, je crois, et puis elle m'a dit bah peut-être que Michel vous rappellera. Bon, j'en ai reparlé avec Michel, je crois quelques années après, on a un peu ri avec ça, mais
c'est pas
voilà, ouais, c'était drôle. Mais la réception était un peu fraîche, mais Michel n'était pas là. Mais enfin voilà. Et puis j'ai enchaîné tout de suite avec Costume 3 pièces. Là, l'accueil était, alors je dois le dire, l'accueil était complètement différent. C'est-à-dire que je suis arrivé de la même manière avec mon petit cartable et mes revendications, en quelque sorte, ou mes demandes. Et là, j'ai été accueilli par Guy et Prisca. C'est Guy qui a ouvert la porte. Donc, c'est un des deux fondateurs de l'agence. Il a ouvert la porte, il l'a ouvert en grand. Alors, je lui ai dit, j'étais dans le couloir, je me souviens, je lui ai dit, voilà, je viens pour un stage, j'ai un métier, c'est gratuit, etc. Et lui m'a dit, bah écoute, attends, hop, rentre, on va boire un café, déjà on va s'expliquer tranquillement, etc. Donc là, je suis rentré déjà dans l'agence. Voilà, c'est ça. Je suis rentré dans l'agence, on a discuté, et puis il m'a dit, bah écoute, on n'avait pas pensé prendre quelqu'un en stage, mais on va y réfléchir et on te rappelle. Et bon, ils m'ont rappelé en me disant que c'était cool, quoi. Voilà, que je pouvais venir rapidement la semaine d'après, quoi. Voilà. Okay. Et donc j'ai enchaîné là-bas, j'ai fait un mois là-bas, et ça s'est plutôt bien passé. J'ai commencé à avoir des contacts avec les illustrateurs. Enfin, en plus, j'ai tout de suite vu l'agence, et je connaissais pas l'agence, mais je connaissais certains illustrateurs qui travaillaient dans l'agence, ou avec des univers vraiment que j'adorais, dont j'étais fan. Donc, c'est assez bizarre de se retrouver aussi en contact, oui, avec des gens dont on est fan.
Ouais.
Voilà. Et puis, ouais, c'est ça. Et puis, j'ai découvert beaucoup d'univers aussi que je connaissais pas non plus, parce que ça regroupe pas mal d'univers différents.
Tu étais lecteur d'albums en édition, tout ça avant.
J'étais très fan de BD, de d'illustrations, choses comme ça. Ouais, j'avais pas croisé de personnes faisant ces choses-là. J'ai rencontré aucune star à ce moment-là, tu vois. Enfin, ce qu'on peut appeler star du métier. J'étais assez décalé par rapport à cet univers-là. En étant enseignant, tu sais, il peut arriver que tu rencontres des gens par l'intermédiaire de quelqu'un, mais si tu arrêtes une pratique, à un moment, tu t'éloignes en plus du.
Oui, complètement. Mais je pense qu'à quelqu'un comme François Rocca, tu vois, par exemple, tu peux pas louper ses bouquins, quoi.
C'est-à-dire non, c'est
si
clair.
Tu n'es pas dans le milieu, tu les vois en librairie, voilà.
Et puis, en étant enseignant, tu sais que tu c'est des supports de lecture, c'est des supports de travail souvent, donc forcément, tu connais son univers. Je parle de Charlotte Gaston, je parlais de filles comme ça, d'illustrateurs comme ça ou de d'illustrateurs comme ça, et c'était assez intéressant de finalement commencer à les rencontrer les uns après les autres. Alors François n'était pas à l'agence à l'époque, mais mais je connaissais son univers, bien sûr. Puis après, j'ai toujours eu un bon rapport avec les livres aussi, donc c'est évidemment l'univers visuel, il a été très très présent chez moi très vite. Ouais. J'ai travaillé dans la bibliothèque de ma ville. J'ai monté une BDthèque parce que les gens savaient que je travaillais dans la bibliothèque et que j'avais des connaissances en BD, ce genre de choses. Donc j'ai eu des crédits pour le faire. Enfin, ce genre de choses. Ouais. Oui.
Mais toi, à la base, t'es pas du tout commercial. T'as tout appris sur le tas.
Ouais.
Parce que quand on t'a dit vas-y, tu peux faire ton stage. Comment ce stage s'est transformé en toi devenir agent d'une des meilleures agences d'illustration de France?
C'est gentil, on prend les compliments. On les prend toujours. Les compliments, on les prend toujours. Hein. Merci Jérémy, c'est bien. Je coche. Il est très sympa. Mais en fait, ça s'est fait de manière naturelle. C'est-à-dire que moi, j'étais dans une idée de faire bouger mon métier, mais je l'aimais quand même bien. Donc, je n'avais pas forcément envie de quitter mon métier. L'idée, c'était de le faire évoluer, donc voir ce qu'on me proposait après. Et du coup, j'ai fait ce stage, ça s'est bien passé. On a eu un super contact, on s'est bien amusé. Le contact avec les illustrateurs était super agréable. À l'agence, il y a une manière un peu de gérer l'équipe qui est une manière un peu... On a vraiment l'idée de l'équipe, quoi, une manière un peu plus, je dirais pas familiale, mais il y a quelque chose où on est quand même relativement proche de nos auteurs. Donc ça, c'est vraiment bien. Et donc ça s'est fait un peu spontanément. Suite à ça, je suis retourné travailler. Je suis retourné faire mon métier, le métier que j'aimais, d'enseignant. Je l'ai fait pendant un an. Et pendant un an, en fait, comme j'avais plus les études, du coup, j'avais du temps libre. J'avais validé mon diplôme, donc j'avais du temps libre et je suis revenu le mercredi pour filer un coup de main comme ça, pour leur donner, rendre visite, puis continuer à avoir un lien comme ça avec Guy et Prisca. Et finalement, l'idée de travailler avec eux est venue assez rapidement. Enfin, je me souviens que Guy et Prisca m'ont dit mais tu veux pas bosser avec nous, parce que si tu viens le mercredi pour nous aider ou de temps en temps un peu comme ça, nous on va être coincés si jamais on a un contrôle. On préférait que tu vois les choses soient bien claires. Donc est-ce que tu veux pas bosser avec nous? Et c'est vrai que moi j'étais un peu prudent au début en me disant oh bah est-ce que je peux me lancer là-dedans. Donc en fait on a fait un petit mi-chemin, c'est-à-dire que j'ai fait un mi-temps éducation nationale, un mi-temps agent d'illustrateur pendant un an pour voir ce que ça donnait, tu vois. Ah ouais. Donc ça permettait un peu de souplesse de part et d'autre. Et puis la chose s'est soldée par une insatisfaction de mon côté, c'est-à-dire tu partages une classe que j'aime pas trop faire. Malheureusement, je n'ai pas partagé ma classe d'un côté avec quelqu'un d'autre qui travaillait à mi-temps avec les mêmes enfants que toi. Et de l'autre côté, tu suivais pas complètement la totalité des projets parce que ça devait s'interrompre, enfin d'une semaine sur l'autre, donc c'était un peu compliqué à gérer en termes d'emploi du temps, etc. Donc j'ai vite, tout le monde était ok pour qu'on bascule sur un plein temps et ça s'est fait comme ça. En fait, je suis rentré. Alors j'ai demandé une disponibilité, puisque quand tu es dans l'éducation nationale, tu as le droit à une disponibilité pour convenance personnelle, on appelle ça. Donc voilà, donc j'ai demandé d'abord le mi-temps, ce qui a été accepté, et puis ensuite la disponibilité. C'est une disponibilité que tu demandes d'année en année, en fait, tu redemandes à chaque fois. Donc ça présente un sacré avantage quand t'es dans l'éducation nationale, parce que tu sais que t'as ton emploi qui est conservé.
Oui, oui. Quelqu'un en parlait justement dans le chat.
C'est ça. Ouais, pardon, je lis pas les.
Ah non, t'inquiète pas, vas-y, justement, je te le dis.
Reste avec nous. Reste avec nous.
Ouais, ouais.
Et donc voilà. Et t'as appris du coup à devenir agent sur le tas.
Ouais, et j'ai appris sur le tas à devenir agent en fait. Et là, en l'occurrence, quand je suis arrivé, Guy et Prisca avait l'unité costume trois pièces. C'était une unité simple d'agence d'illustration. L'idée qui était un peu en sous-jacente, c'était d'arriver à accompagner nos auteurs dans d'autres domaines, avec de les accompagner de manière plus complète sur d'autres projets. Donc j'ai pu apprendre vraiment bien avec eux deux j'ai bénéficié des conseils immédiatement de quelqu'un de gens qui l'avaient déjà fait aussi, qui le faisaient depuis longtemps et qui le faisaient bien. Et puis après, tu apprends en faisant aussi. C'est important, ouais. Donc en quelque sorte, j'étais bien entouré avec un bon axe qui permettait de pas faire d'erreurs, enfin pas faire trop d'erreurs, d'apprendre quoi en fait. Et puis c'est beaucoup de relations humaines. Si tu as eu un peu de rapport avec les gens et que ça se passe plutôt bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal par la suite. Il y a ça aussi, tu vois.
C'est clair.
Et donc j'ai appris au fur et à mesure, ouais.
Et pour les personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas du tout Costume 3 pièces, comment tu présenterais un petit peu l'agence, toi?
Ben alors l'agence Costume 3 pièces, c'est une agence justement qui quand j'y suis entré, était une agence d'illustrateurs, et c'est devenu petit à petit une agence qui a deux dimensions, deux entités, enfin deux dimensions, c'est la même entité mais avec deux dimensions, c'est l'agence d'illustration et le studio de création. Le studio de création permettant d'accompagner nos auteurs sur des projets plus variés, et il est venu d'un souhait de Guy et Prisca, de la part de ces deux-là, de montrer que l'illustration, elle pouvait se mettre sur beaucoup beaucoup de supports, parce qu'au départ, quand on est une agence d'illustration, on dépend un petit peu plus des agences de publicité.
Ah oui, bien sûr, ouais.
Toutes les caractéristiques que ça impose, c'est-à-dire souvent des effets de mode, souvent un filtre qui est fait par les directions artistiques des agences, très bien, mais ça peut, on peut avoir souvent des univers qui se ressemblent, avoir toujours le même type de commandes, des contraintes clients qui sont particulières. Il y a d'abord la volonté du client, puis après entre deux, il y a aussi la volonté de l'agence de publicité, puis ensuite il y a le travail de l'illustrateur. Donc ça fait une segmentation comme ça des envies ou des besoins qui fait qu'on voit pas toujours la finalité de ce qu'on est en train de faire. C'est souvent, il y a un grand décalage entre, et puis les illustrateurs travaillant, ouais, enfin ça c'est un autre sujet, mais j'imagine qu'on l'abordera après. Mais au fur et à mesure, donc il y a eu cette idée aussi de proposer l'illustration sur d'autres supports, du packaging, mais aussi des vitrines, mais du film, voilà, sur des objets. Enfin, on peut développer ça à l'infini. Et la chose, c'est que souvent, les illustrateurs ont une aptitude ou deux, c'est-à-dire ils connaissent par exemple telle ou telle dimension, je sais pas, mais ils maîtrisent pas tous les domaines, ce qui fait que dans beaucoup de, enfin, vous et moi, on baigne dans ce milieu, donc on se rend pas forcément compte, mais la vision qu'on a de l'extérieur pour un illustrateur, c'est qu'on pense qu'il est capable de tout faire, c'est-à-dire qu'il est capable d'être graphiste, il est graphiste, il est illustrateur, il fait des images animées, etc. Alors qu'en réalité, ce sont des métiers différents, certains cumulent des aptitudes pour faire ces deux métiers, mais c'est pas toujours le cas. Donc dans la tête des gens, c'est souvent oui, bah il va nous mettre la typo aussi, ou alors là il va nous mettre ça en place, mais on va faire un pack.
C'est d'autant plus compliqué quand tu débutes, que tu n'as pas de réseau, que tu n'as pas de contact, que pour le coup, bah tu te rends disponible pour tout et n'importe quoi. Et que moi, c'est une erreur que j'ai fait notamment au début, c'était de dire oui à tout dans n'importe quelle situation et de me dire de toute façon, je me forme sur le tas et puis les autres doivent bien le faire. Mais en fait, quand on commence à connaître, il y a des skills, des savoir-faire à maîtriser et puis évidemment, on peut pas dire oui pour tout n'importe comment pour n'importe quel prix. Voilà, c'est évident.
Ouais, c'est vrai.
C'est une erreur qui arrive souvent.
Mais les clients qui ne le savent pas eux-mêmes le demandent. Vous pouvez tout faire.
Ouais, très bien. C'est ça. Ouais. Ou ça va de soi, tu vois.
Du coup, vous recevez des briefs où vous gagnez un appel d'offres, on pourra en parler, d'une agence. Et au lieu de juste proposer un talent, vous dites, mais nous, en fait, on s'occupe de tout. Et du coup, vous avez le contrôle du début à la fin, c'est ça?
Ben, en fait, avec les agences, ça continue à se passer de la même manière. Lorsqu'en fait, si on veut résumer un petit peu l'agence, on va dire qu'il y a la partie agence d'illustration qui est plutôt en contact avec les agences de publicité. Et puis, on a la partie studio de création qui est plutôt en contact avec des clients directs. C'est-à-dire que là, le studio de création développe tellement de choses différentes qu'on peut être amené à faire des vitrines pour un joaillier, mais également du packaging pour une marque en direct. Donc là, on s'adresse directement la chaîne de entre le client, la chaîne de création entre le client et l'illustrateur, elle est plus courte. Ouais. On est les intermédiaires, c'est-à-dire que et cette partie-là, c'est plutôt Guy et Prisca qui s'en occupent par exemple. C'est eux qui ont une forme de spécificité là-dessus.
Toi, c'était vraiment l'agence d'illustrateur.
Ouais, moi je suis plus sur la partie agence d'illustration.
Ouais, d'accord.
Petit point technique, Jérémy, on t'entend pas assez au niveau du son. Il faudrait que tu montes un tout petit peu ton micro juste pour l'audience.
Ah, d'accord. Je peux pas me rapprocher plus pourtant. Bon, c'est bizarre.
Voilà. Vous entendez mieux, Jérémy?
Ah, si je parle comme ça, c'est bon, vous m'entendez?
Ah, il fait de l'ASMR.
Je fais de l'ASMR.
Mon Dieu.
Ok. Alors, pardon, on en était où? On en était à.
Je ne sais plus. À vous de faire revenir la chose. Non, on était sur.
Toi, t'es plutôt sur le côté agence d'illustration. Oui. Et du coup, ça, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. C'est comment est-ce que toi, vous construisez la notoriété des talents que vous signez et comment vous développez la carrière de vos artistes?
Ben ça c'est une bonne question. Je pense qu'on n'essaye pas de développer la notoriété en fait. En réalité, c'est pas forcément quelque chose qu'on. La notoriété, c'est un truc très particulier. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on prend en ligne de compte en fait.
Sur votre site, je le précise.
Mais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est peut-être pas forcément là-dessus qu'on met l'accent. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui nous intéresse nous, c'est d'accompagner nos auteurs en fait. En réalité, c'est ça le vrai métier de l'agence, c'est d'accompagner son auteur, c'est de partir d'un point B, d'arriver jusqu'à le plus loin possible avec lui. On essaie nous d'avoir une vision d'équipe. On est au plus près de nos auteurs, on leur parle souvent, on essaie de c'est pour ça que c'est intéressant cette émission parce qu'on va pouvoir expliquer un petit peu ce qu'est l'agent en réalité. On a toujours un peu l'idée que c'est la personne qui prend une commission, sur le travail de l'auteur.
Première caricature.
Allez, chacal.
Et que l'argent elle est au centre de la chose. Alors c'est sûr, il y a une commission, mais c'est la même chose à peu près pour tout le monde, je crois. Tous les agents prennent 30% de commission. Il n'y a pas de secret.
Ouais,
hein,
oui.
C'est
confirme.
C'est quelque chose de la profession. Parfois, il y a des gens qui prennent un petit peu plus cher, mais en tout cas, c'est pas le cas pour nous. Mais c'est surtout d'accompagner les auteurs, parce que faut le, dans une agence d'illustration, les auteurs travaillent chez eux. Ils ont finalement un contact avec le client qui est épisodique, etc. Mm-hmm. Alors que nous, on a une vision un peu plus centrale. C'est un peu un truc en étoile. Chaque auteur est au bout de l'étoile. Et l'agent, il est un peu au centre et il compose. Il a l'habitude de parler avec les clients. Il a l'habitude de suivre des projets. On va dire que les projets sont multipliés. L'auteur, il en a peut-être un par mois, et l'agent, il en a, en fonction du nombre d'illustrateurs qu'il a dans son agence, une grande quantité souvent.
Et puis ce qui est intéressant, c'est que certains clients avec qui tu vas travailler sur plusieurs projets avec eux, avec des auteurs différents. Mais toi, tu seras au centre et tu auras déjà eu l'habitude de travailler avec ce client-là, donc tu le connais par cœur.
Exact, tu as plus de possibilités. Puis il y a aussi une chose qui est intéressante avec le métier d'agent, c'est que ça comme tu accompagnes tes auteurs, tu les protèges d'une certaine manière, parce que dans la création, quand tu fais une image, il y a une dimension, comment dire, je cherche mes mots, il y a une dimension émotive dans la création de l'image que tu n'as pas quand tu es agent, c'est-à-dire que tu aimes ce qui a été produit, tu sais, tu sauras le défendre. Mais là, c'est pas toi qui l'as fait l'image. Il y a une partie de l'émotion qui est enlevée. C'est beaucoup plus simple de discuter avec des gens quand t'as des retours, quand tu as des gens qui sont pas d'accord avec le rendu, d'être légèrement décalé de tout ça pour pouvoir en parler de manière apaisée. Et les retours sont, tu peux les prendre aussi. C'est un client qui peut être ça peut arriver parfois un peu brusque dans ses retours. Toi, tu sais que
t'es l'éponge.
Ce qui veut dire, et tu peux, ouais, j'aimerais dire plutôt, ouais, tu, oui, oui, éponge. Je suis pas sûr que ce soit un truc très sexy, hein, mais
non, c'est pas sexy, c'est pas sexy, mais bon, pour l'auteur, l'artiste, c'est intéressant.
Ouais, tu fais le tampon en quelque sorte. Il y a quelque chose comme ça, et puis ça te permet aussi d'avoir des arguments, parce que quand t'es dans l'émotion, peut-être tu trouves pas forcément les arguments immédiatement pour pouvoir répondre à quelque chose qui semble un peu rude ou ce genre de choses, alors que là, tu remets les choses dans le contexte, t'expliques, et puis surtout, tu défends ton auteur, parce qu'il y a toujours la volonté du client qui est une volonté légitime, hein, c'est-à-dire d'avoir une production d'image un peu comme il la veut, et puis tu as la volonté de l'auteur qui est aussi produire ce qu'il sait faire dans son style, et ne pas se trahir pour des projets, etc. Donc,
et d'ailleurs, la mesure
à trouver, elle est toujours un peu particulière. Ouais. Ouais.
D'ailleurs, il y a la même chose dans l'autre sens, parce que des fois, le client fait lui-même appel à une agence. Donc, en fait, vous êtes deux à parlementer, un petit peu comme des diplomates, pendant que le client, il existe des choses, et que l'artiste, en fait, derrière, il essaye d'imposer aussi sa vision. Quoi.
Oui, c'est ça. Il faut arriver à trouver un bon compromis entre la volonté de l'artiste qui parfois, comme il est loin et qu'il est loin des préoccupations du client, a envie d'imposer quelque chose sans forcément tenir compte du contexte. Donc il y a aussi un rôle un peu comment dire, didactique, un petit peu, ouais, modérateur.
Qui ne l'a jamais fait.
Pour expliquer un petit peu, tu sais, ouais, là il demande 10 fois, mais faut comprendre que. Et c'est vrai que c'est intéressant cette espèce de rôle un peu de tempérance d'un côté et de l'autre, ouais.
T'es agent, t'es psy, t'es aussi la personne qui met des petites tapes sur le dos,
Oui, non, mais c'est ça. En fait, je dirais pas psy, mais c'est vrai que l'idée d'accompagnement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu es au plus près de tes auteurs. Nos auteurs, on les connaît par cœur. Enfin, par cœur, non, je voudrais pas dire ça, mais on les connaît vraiment bien. On sait ce qui se passe dans leur vie. On les côtoie. Nous, chez Costume, on essaie de pas être une grosse agence avec beaucoup, beaucoup de monde. On essaie d'avoir une équipe qui est à taille humaine, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on est quand même 6 à l'agence. On a 35, 36 illustrateurs. On essaie d'être au plus près d'eux. C'est-à-dire qu'on les a pas forcément tout le temps au téléphone, mais on essaie de les avoir régulièrement, de pas laisser trop de temps avant de les avoir. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui appelle, etc., en fonction un peu après. Tout dépend de la quantité de travail qu'on a, mais globalement, même quand on n'a pas de travail, c'est intéressant quand même de les appeler, de voir un peu avec eux comment ça va, etc.
Ça doit pas être simple.
L'idée, c'est un peu ça.
De tout le temps, comme ça, te mettre au diapason. Vous êtes un peu des caméléons, quoi, en fonction des sensibilités de chacun, des attentes des clients, puis des ambitions des artistes, de réussir à arrondir les angles pour tout le monde. Ça doit pas toujours être facile.
Oui, c'est pas 100 heures. Hein. C'est comme toute relation. T'as souvent des moments où t'es pas content, et des moments où t'es très content, et des moments où ça va. L'intérêt, c'est que ça aille le mieux possible. En fait, c'est surtout ça. Ouais.
Ouais,
c'est-à-dire qu'il faut que ça avance dans le bon sens. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que le fait de nous d'être un peu plus central dans la transmission des commandes, etc., ça permet aussi de, je vois avec des clients, de pouvoir imposer aussi des univers. Pour le studio, par exemple, il peut proposer des univers qui seraient pas forcément proposés par une agence de publicité qui serait, elle, plus, comment dire, plus contrainte par la mode ou les phénomènes de l'air du temps. Voilà. Ouais. On peut arriver à proposer des gens qui, par exemple, puisqu'on les connaît bien et qu'on connaît leur style, développe un univers qui correspondrait bien pour la marque, ou enfin qui pourrait facilement rentrer dans les codes de la marque, par exemple. Et on fait des sélections d'images, on sait qu'on va montrer telle ou telle image plus qu'une autre. On va demander parfois à un illustrateur de nous proposer quelque chose, s'il a des choses dans ses cartons qu'on n'a pas vues, etc. Et ça va permettre de mettre des gens dans des univers vers lesquels les marques ne seraient pas allées spontanément, par exemple.
Ouais.
Et donc, alors, ça, c'est intéressant, ouais.
On a une question à 1000 points qu'on pose à chaque fois, évidemment.
Alors, j'attends la question.
Aux agents d'illustrateurs, c'est comment vous choisissez les artistes avec lesquels vous aimeriez collaborer? Tout le monde a envie, dans la profession, d'être représenté par un agent. J'ai l'impression qu'on n'a jamais, que la question ne s'épuise jamais, même si je pense que les réponses se répondent souvent. Mais on te la pose aussi. C'est quoi les qualités que vous recherchez pour signer un artiste ou une artiste?
Alors, définir une qualité, c'est compliqué. En fait, il faut, on reçoit beaucoup de dossiers, quoi. Comme toutes les agences, il y a beaucoup de gens qui nous proposent des choses. Donc,
quand tu dis beaucoup, ça peut être combien par semaine ou par mois? En moyenne,
je vais dire par jour. Je pense qu'on a moyenne 2 à 3 dossiers par jour.
Oui, quand même.
Ah ouais.
Sachant que, comme on représente nos auteurs en France, zone Europe et au Japon. On a aussi beaucoup de gens qui nous connaissent un peu à l'international, donc on a beaucoup de. En ce moment, je sais pas pourquoi, on a beaucoup d'illustrateurs espagnols, par exemple, qui viennent vers nous.
C'est drôle.
Il y a des vagues. Ouais, des vagues comme ça, je sais pas. On n'a pas fait énormément de projets en Espagne, mais par exemple, voilà, apparemment, en ce moment, on en a beaucoup. Mais donc, c'est les gens qui nous sollicitent, qui nous envoient leurs dossiers, on regarde et alors te dire. Il faut d'abord que l'univers nous plaise. Il y a beaucoup de critères différents, mais d'abord, il faut que l'univers nous plaise. Il faut qu'on sente que cet univers-là, on va lui trouver des projets. C'est-à-dire que parfois, univers
c'est
qui nous plaisent.
C'est la portée commerciale du style.
C'est-à-dire qu'on connaît un peu notre volant de commande, notre type de client, les types de clients qu'on peut avoir aussi. Et on sait qu'il y a des univers qui ne matcheront pas. Il nous est arrivé de juste laisser parler un peu notre cœur, en quelque sorte.
Erreur de casting.
Et en fait, ouais, on ne peut pas dire erreur de casting parce qu'on y croit, mais souvent, c'est soit décalé. C'est-à-dire que ça commence un peu tard, alors qu'en fait, on a essayé pendant longtemps et ça ne fonctionne pas. Puis soudain,
il y a une question de timing.
Il y a aussi une question de timing. Il faut être prêt à certains univers parce qu'il y a malgré tout des effets de mode aussi. Donc, il faut, comment dire, on essaie de ne pas tenir compte de ces effets de mode, mais on sait que, par exemple, soudain, il peut très bien se passer un engouement pour tel ou tel style.
C'est quoi qui marche
Soudain, ça va fonctionner. En ce moment, je sais pas si on peut parler de tendance, mais on revient à des choses un peu plus... faites à la main.
J'ai entendu parler de ça cette année.
Après le flat design, là-dessus. C'est le ras-le-bol. On revient à quelque chose de plus analogue.
Il y a des articles là-dessus.
Quelque chose d'un peu moins digital, tout ça. Bon, à voir. Mais...
De toute façon, maintenant, le digital permet de faire comme si c'était du fait main. Donc, bon.
C'est vrai.
En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de règles. C'est-à-dire que dans l'absolu, on peut envoyer des dossiers à costume 3 pièces. C'est possible que vous repériez quelqu'un par ce biais. Mais c'est aussi fort probable que vous preniez personne et que vous dénichiez quelqu'un de votre côté.
En fait,
est possible.
Oui, tout est possible. En fait, nous, on essaie de rester vigilants. Il y a les réseaux sociaux. On va beaucoup sur Insta. On va beaucoup sur tous les endroits qui envoient des images. Donc, c'est intéressant. Et puis, il y a It's Nice That, par exemple, ou ce genre de choses.
Ah oui, It's Nice That. Oh là là.
On a pas mal d'entrées différentes. Et puis, on essaie de rester en veille. On regarde un peu les choses. Mais il y a aussi les écoles. Il y a aussi, les dossiers qu'on nous envoie, il y a les illustrateurs qui nous parlent d'une personne qu'ils aiment bien et que potentiellement on peut aller voir. En fait, il y a pas que quand on nous envoie des dossiers, il y a aussi un rôle un peu actif de la part de l'agent pour essayer d'aller sur certains réseaux, regarder un petit peu les expos, les festivals d'illustration. Tu vois, il y a une IMS Illustre il y a pas longtemps, ils vont refaire une session.
Oui.
Il y a un festival aussi il y a les puces de l'illustration. Enfin, il y a beaucoup de choses. En fait, faut être attentif à tout ce qui se passe et potentiellement se poser la question de savoir si tel ou tel illustrateur peut rentrer dans l'agence. Et si oui, alors on le regarde de manière un peu collégiale. On s'intéresse à son dossier, on regarde. Mais c'est important parce que le ressenti des uns et des autres, ça permet, parce qu'on va tous travailler avec eux, Donc le ressenti des uns des autres permet de donner des indications sur ben là j'aime bien, mais est-ce que si on est dans ce type de projet, est-ce qu'on va y arriver? On se pose à chaque fois vraiment 1000 questions. J'imagine que c'est comme ça pour toutes les agences, mais c'est vrai qu'un truc très spécifique chez nous, c'est qu'on s'interroge beaucoup sur la manière dont on pratique. On essaie d'anticiper ce qui pourrait potentiellement poser problème, etc. Et quand on est d'accord avec le style, est-ce que l'univers de l'illustrateur, on le rencontre à ce moment-là? On a une deuxième étape où là, il y a l'étape de la rencontre, et c'est intéressant de voir si ça peut matcher avec la personne qu'on rencontre, parce que nous, on a besoin aussi de faire comprendre qu'on veut aussi accompagner, donc accompagner de manière aussi un peu stylistique, c'est-à-dire que il y a des périodes de doute, on accompagne l'auteur dans ces périodes de doute aussi parfois créatives. Il y a des moments où
ça ressemble à quoi, ça, les périodes de doute créatives?
Ben par exemple quand il s'agit de faire évoluer des dossiers, c'est-à-dire que quand t'as un dossier qui commence à avoir moins de commandes ou la personne pour X raison commence à
ça s'allume trop, ça c'est une petite alerte
ouais,
dans la tête.
Oui c'est dans la tête de l'auteur, c'est souvent ben est-ce que je suis pas en décalage. Il y a plein de regards, hein, le décalage par rapport à l'équipe, ça peut être une chose, que nous on fonctionne avec un système quand même d'équipe, les gens se connaissent, on se fait des réunions régulièrement, très régulièrement, les gens se rencontrent, se parlent, etc. Donc il peut y avoir un décalage par rapport à des gens de l'équipe en se disant tiens, mais tout le monde a l'air de faire des trucs super chouettes, est-ce que moi je suis aussi dans cette dynamique-là, mais aussi par rapport à une production globale, c'est-à-dire que je fais des choses un peu similaires, il y a souvent des compléments par exemple des gens qui font beaucoup d'éditions. Si on leur demande toujours la même chose, à un moment on se pose question, on a envie d'essayer. Il y a une lassitude, il y a les choses. C'est un peu comme dans tous les métiers. Donc là, quand il y a un peu de doute, ben nous on est là aussi pour donner des indices, pour accompagner, pour aider, et même prévenir un peu ce genre de choses où il y a des univers qui commencent à être copiés. On est dans les familles graphiques qui parfois sont très copiées. Oui, et puis soudain un illustrateur qui est un peu qui était un peu précurseur au début, se retrouve vite rattrapé ou noyé dans une espèce de masse qui fait un peu des choses à la manière.
Ça, c'est trop frustrant quand même.
Ouais, mais nous, on est là pour apporter des solutions, c'est-à-dire se poser les bonnes questions, essayer d'engager l'illustrateur dans des choses qu'il veut continuer à faire, c'est-à-dire être un peu l'interlocuteur, parce que souvent ça vient de l'illustrateur. On a des dossiers qui ont changé, quelqu'un qui travaille en aplat, qui soudain commence. On a vu dans ses carnets de croquis.
Oui, sur une dizaine d'années.
Ouais, c'est ça. Et on voit dans ses carnets de croquis que la personne, elle peut aussi faire du trait, elle peut dessiner au trait. Et soudain, on se dit, mais ça, c'est vachement bien, ça, ce crayonné-là, pourquoi tu pousses pas un peu? Puis petit à petit, à l'inverse, des gens qui sont au trait, qui ont du mal à passer à la couleur, réussir à injecter l'idée de peut-être comment l'amener. Alors donc, il y a des essais qui sont faits, c'est des changements qui se font sur le long terme. Pas du jour au lendemain, tiens, on a essayé un truc, on l'a trouvé, en 15 jours, on a changé son dossier, on a fait évoluer son style. Non, c'est des choses qui s'installent sur la lenteur avec des ping-pong, avec les bonnes personnes. Ça peut être l'agent, mais ça peut être aussi d'autres gens qui sont du métier. Donc ça, c'est un des rôles vachement importants.
Et les commandes, ouais, elles façonnent aussi le style, quelque part, parce que il y a des commandes qui, on a tous eu quelques-unes comme ça, mm-hmm, qui vont être des moments hyper importants dans la carrière, justement en relationnel avec l'agent, mm-hmm, et qui font un petit peu ce qu'on appelle en anglais des breakthroughs, en fait, des révélations comme ça, des épiphanies, et tout d'un coup, mm-hmm, on a trouvé enfin une solution, et c'est peut-être là, vers ça qu'il faut qu'on insiste, qu'il faut qu'on aille, mm-hmm, pour les prochains mois, prochaines années.
Mm-hmm. Oui. Et parfois, on a besoin d'un regard extérieur pour nous faire remarquer que ça, c'est vachement bien et que nous, on se dit peut-être, oh, c'est des petits trucs que je fais à côté, personne n'est intéressé.
C'est vrai. Et puis après, ça permet de construire les choses ensemble, en fait. C'est un peu particulier, mais c'est un vrai regard. Après, il y a aussi, quand on rencontre les gens, il y a aussi une confiance qui s'installe. Il y a quelque chose où l'agent, il est quand même une personne de confiance.
C'est une petite famille.
Oui, c'est ça. Et c'est là où, effectivement, il y a peut-être ces dimensions. Je parlais tout à l'heure de mes études, mais finalement, il y a quand même une convergence. Il y a un peu de psychologie, il y a une bonne connaissance de ce qu'il y a à faire. Et puis, il y a aussi un peu une forme d'organisation nécessaire. Ce qui réunit, enfin, en tout cas, pour ma partie, un peu les trois directions d'études que j'ai pu faire.
Ouais. Je crois que les agents aussi un petit peu caricaturé, parce qu'on a aussi l'image des agents à l'américaine et qui vont justement prendre beaucoup de monde dans leur catalogue et finalement faire bosser très peu de personnes. Il y en a qui ont eu cette expérience là, mm-hmm, au cours des dernières années. Justement, qu'est-ce qui fait la différence avec la French Touch, en fait, des agents français?
Alors, je sais pas. Je vais décaler ma réponse parce que je viens de voir sur le chat, parce que je jette un œil de temps en temps et je vois David qui a dit c'est le cas pour Vincent Mahé, si j'ai bien compris, le fait qu'il utilise la ligne claire dans son style vient d'un retour de ses agents. Ah oui. En fait, pas vraiment, parce que Vincent, ça reste encore pour l'instant un jeune auteur. Il a fait évoluer son style où il y avait des choses en aplat avant vers des choses où il y a plus en plus de. Maintenant, c'est du trail à ligne claire. C'est quelque chose qui était en lui déjà et il avait un peu cette double possibilité. Et c'est vrai que en voyant un peu les gens qui gravitaient autour de lui, les gens de son atelier par exemple, qui sont aussi des illustrateurs, il a su aussi tirer les choses un petit peu qui lui permettaient d'avoir de la singularité. Nous, ce qui est important, c'est qu'on ait des gens qui ont un univers singulier, qui puissent avoir un univers singulier. C'est pour ça qu'on va venir les chercher à l'agence.
Ouais.
En fait, et chez nous, mais chez les autres aussi. C'est aussi un conseil que je peux donner aux gens qui veulent préparer des dossiers. Parce que ça, c'est important peut-être de faire passer ce message tout de suite. C'est quand on a besoin de trouver un agent, par exemple, il faut pas montrer toutes les étendues de ce qu'on peut faire. Les agents, la plupart du temps, ils ne recherchent pas un couteau suisse. Ils cherchent une singularité, un univers singulier. Et il y a la concordance entre un univers singulier et l'agence dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que si vous regardez les différentes agences d'illustration, il y en a quand même une bonne quantité, il faut regarder un peu leur ligne éditoriale en quelque sorte, ou leurs choix éditoriaux, enfin les choix de d'univers qu'ils ont dans l'agence. Ouais, et ça donne une indication.
Ouais. Vous, c'est le luxe, par exemple.
Je dirais pas ça en fait, mais c'est pas le choix qu'on fait. C'est pas le choix qu'on fait. C'est en revanche les illustrateurs qui sont à l'agence donnent une idée de quels sont les types de clients qu'on peut avoir. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que nous, on reçoit des dossiers qui sont parfois très très bons, mais qui ont, on sent qu'ils n'ont pas compris la réalité du marché dans lequel ils sont, par exemple. Alors, il y a des univers qui sont magnifiques, des gens qui ont une technique incroyable, mais qui est pas adaptée à une commande commerciale. Et ça, ce serait, il y a des gens qui ont un univers de dingue et qui vont s'épanouir dans la BD, ça va être formidable, ils sont, c'est des talents hors pair, mais qui vont pas coller avec une commande où on va les contraindre un peu, ou alors ils liront pas forcément les codes, où le style est pas forcément en adéquation.
Ouais, t'as raison, faut mettre de côté le j'aime pas, et puis à un moment, il faut aussi regarder un petit peu les cartes que t'as sur la table, est-ce qu'on peut les jouer, quoi? C'est quand même très important.
Chercher un agent, c'est accepter de faire du travail commercial. Et là où parfois certains auteurs, illustrateurs, illustratrices peuvent avoir envie de gagner de l'argent, c'est tout à fait normal, mais de l'autre, peut-être rechigner à faire du commercial et peut-être qu'il se développerait mieux dans une démarche d'auteur.
Après, ça n'empêche pas d'être radical, ouais. Je pense, Jérémy, mais je pense qu'il faut avoir peut-être cette ouverture d'esprit de se dire, je peux rester radical, mais en fait, si je comprends pas les règles, ben, je peux pas évoluer dedans, quoi. Voilà.
Oui, c'est ça. La singularité d'un univers, elle c'est ce qui prime, en fait. Et après, il y a une adéquation avec des codes de marque ou de vous avez tous dans vos amis des gens qui ont un univers que vous admirez, mais vous savez qu'il va être légèrement inadapté à ce genre de choses. Et c'est pas grave, parce que dans l'absolu, il y a d'autres possibilités. Hein. Il y a de l'édition, il y a pas mal de choses différentes. Mais c'est vrai que quand on envoie un dossier, il vaut mieux montrer son style, mettre en avant son style, pas essayer de montrer le plus de choses possible, de tous les savoir-faire. Il vaut mieux montrer quelque chose qui correspond à ce que vous êtes en termes de style. Et ensuite, bien choisir l'agence à qui vous allez l'envoyer, c'est-à-dire savoir, bah tiens, dans cette agence-là, je vais peut-être bien m'insérer parce que leur code, leur univers fonctionne bien. Vous regardez le panel de tous les gens qui sont représentés chez chacun et vous allez comprendre que ouais, là ça va bien fonctionner parce que j'ai un style où je dessine à la ligne claire plutôt des choses un peu on va dire dans un style BD. Je vais peut-être pas forcément aller chez tel agent, je vais peut-être plutôt choisir celui-ci qui a déjà un univers une ligne éditoriale qui lui ressemble. Et après, ouais. Peut-être la dernière précision, c'est de regarder aussi qu'il n'y ait pas un univers similaire vraiment.
Ah oui,
pour pas avoir un double, parce que nous, c'est une chose qu'on regarde. Parfois, on a des univers qui sont trop proches avec des gens qui sont talentueux, mais on se dit, on a déjà quelqu'un qui fait qui a cet univers-là dans l'équipe. On va pas prendre un doublon, mais oui. Ouais. Mais oui. Donc, et c'est pas parce que la personne qui est dans l'agence avec ce style-là travaille beaucoup qu'on va prendre quelqu'un pour compenser un peu l'énorme travail qu'il peut avoir. Non, on veut pas faire ça parce que ça, oui, c'est forcément, c'est pas chouette et c'est pas un respect de notre auteur. Donc on se pose toutes ces questions, on se les est posées, on se les pose encore et c'est dans le but de respecter les gens avec qui on travaille. En fait, il y a un engagement tacite de part et d'autre, de la part de l'auteur, mais aussi de la part de l'agent. On a une démarche nous active. C'est pas on passe et on est inactif et on prend la commission. C'est pas du tout ça en fait. Ça c'est la caricature et la vraie chose c'est on se pose 1000 questions. On fait des espèces de rendez-vous avec nos illustrateurs pour un peu voir où ils en sont, vers quoi ils veulent aller, la parole elle leur est laissée, etc. Enfin, c'est le métier d'agent, c'est ce métier-là, en fait.
Et tu disais tout à l'heure que... Enfin, tu parlais de ligne éditoriale et que vous n'êtes pas forcément dans le luxe, même si c'est peut-être un peu l'image qu'on pourrait... quand on regarde de l'extérieur votre site internet et comment vous décrivez. C'est quoi, du coup, votre ligne édito pour toi?
Ben c'est vrai qu'on a des auteurs qui ont des univers singuliers. Et ça, je pense que toutes les agences essayent d'avoir un univers singulier qui leur correspond. Donc, c'est un peu difficile de définir ce qui nous correspond vraiment. Mais on est assez ouvert dans les styles. Hein, vous pouvez le voir à l'agence. Et peut-être, c'est vrai qu'on a un soin particulier pour les univers qui peuvent avoir peut-être un... Et en même temps, c'est pas totalement vrai, ça. En fait, c'est compliqué à définir complètement. Je pense que la meilleure manière de le définir, c'est vrai, c'est difficile d'appréhender vraiment finement.
Oui, tout à fait.
Il n'y a pas une règle. En fait, on se fait surprendre parfois par des auteurs qui, on se dit, tiens, c'est génial, ça peut s'adapter au code. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une dimension un peu plus décoratif peut-être, on aime les gens aussi qui font du motif par exemple, on aime aussi les gens qui font, mais la narration elle a une place importante, on a peut-être, chez nous peut-être que la part de la narration elle est légèrement moindre on va dire, c'est un curseur qu'on peut faire bouger la narration, hein. Dans les images nous il y a toujours la narration, mais c'est vrai que nous on a peut-être un curseur qui est un petit peu plus du côté de du côté décoratif et un tout petit peu moins de narration dans certaines dimensions, ça veut pas dire que c'est une généralité pour tout le monde.
Ouais,
c'est vrai qu'on parlait de ligne éditoriale, mais c'est un mot qui est un petit peu biaisé. C'est en fait la ligne, elle se fait parce qu'en fait c'est la somme de à la fois vos coups de cœur, aussi des tendances. On parlait des tendances, bon les tendances, le top c'est quand les tendances durent, hein. C'est quand un artiste fait 10-20 ans avec l'agence, là c'est que le travail a été bien fait et que voilà son unicité, sa singularité est demandée par les clients. Et je sais plus où je voulais en venir, mais oui, je voulais revenir à ma question précédente. Justement, qu'est-ce qui fait la French Touch et comment tu peux démonter justement cette caricature à l'américaine en fait qu'ont les agents?
Ben, à l'américaine, c'est un peu pour nous, c'est un peu la collectionnite en fait. Le défaut un petit peu de ça, c'est de prendre au maximum de monde pour se dire. En fait, ça se voit très vite Enfin, j'aimerais dire que dans les grosses agences, dans les agences américaines, on va dire, le fait d'avoir énormément de monde, ça garantit un volume de commandes pour l'agent, en quelque sorte.
Oui, comme en supermarché, tu mets plein de produits, voilà.
T'as forcément quelqu'un qui va venir vers toi pour telle ou telle chose, et puis tu vas être sur beaucoup, beaucoup d'appels d'offres, ou beaucoup de, tu vois, les agences de pub, elles te font appel à toi en disant, bon, bah voilà, il y a 5 personnes en compète, alors toi, bah, j'aime bien lui et lui, donc t'en as deux, il y a 7 personnes en tout, t'en as 2 sur 7, bon, voilà. Alors, les agences qui ont une grande quantité d'illustrateurs, bah, c'est compliqué. Tu vois, ça, c'est aussi un choix chez nous de pas avoir trop de monde. Nous, depuis que Costume existe, on est resté aux alentours de 30, 35 illustrateurs. Et tu vois, ça fait longtemps que je suis à l'agence. On n'a jamais voulu vraiment... On veut pas être à 40, 50, parce qu'après, ça veut dire qu'ils sont plus anonymes au sein de l'équipe. C'est-à-dire que tu peux pas les avoir tout le temps au téléphone, tu sais pas ce qu'ils viennent, t'as un truc qui se distend, tu sais pas qui ils sont. Donc forcément, ton rapport avec eux, il est particulier, tu peux moins leur expliquer les choses, ils ont moins confiance en toi, il y a un truc un peu... Ils te voient moins souvent, enfin, tu vois.
C'est encore une histoire de curseur et de jauge, en fait. Vous l'avez réglé à l'endroit où ça marche, c'est ça.
On a envie de dire à taille humaine. Après, chacun fait comme il veut. Il y a aussi, je veux dire, c'est très bien, il y a peut-être des illustrateurs qui sont... heureux dans des grandes agences ou je sais pas, voilà, mais nous on a décalé un peu ce truc là on préfère avoir moins de monde et être plus près d'eux que plus de monde et moins près d'eux, enfin après c'est un choix, C'est un
choix. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, de mauvaise agence.
Non.
Mais tu parlais tout à l'heure de gagner des appels d'offres. Et ça, c'est aussi un truc qui est peut-être un peu mystérieux pour les personnes, les illustrateurs, les illustratrices qui sont de l'autre côté. Il y a sûrement des tonnes de... Allez, les différentes agences, justement, vous êtes collègues et concurrents en même temps. Et puis, il y a des briefs de boîtes de com qui, justement, approchent peut-être diverses agences.
Ah bah oui, c'est sûr.
Et du coup, il y a des tonnes de petites règles tacites que vous connaissez, mais que les illustrateurs connaissent pas. Et c'est quoi un petit peu ces règles tacites où vous jouez entre vous, entre les agences, et comment vous faites pour mettre en avant votre catalogue et du coup gagner un appel d'offres quand il y en a un?
Alors, appel d'offres, il y a deux choses. Appel d'offres, ça correspond, enfin pour moi, le mot appel d'offres, il correspond plus à une commande publique. C'est quelque chose de référencé. Tu réponds à un appel d'offres, il y a plein de gens qui vont postuler. Ensuite, il y a une sélection, puis ensuite, enfin voilà. Alors que pour les agences de pub, on parle plus de compète. Alors, t'es en compète avec, tu vois, c'est compète. On est tout de suite dans un truc un peu plus.
Et consultation, c'est quoi?
Consultation, c'est lointain encore. Tiens, je te consulte pour éventuellement savoir si dans 3 semaines tu serais dispo pour un deck. Okay, ouais. Tu vois, c'est plutôt.
Donc on parle vraiment de compétition.
Ouais, t'es en compète. Alors alors t'as combien de personnes en compète? Et donc il y a la compète et il y a la reco de l'agence. C'est-à-dire que il y a plusieurs illustrateurs qui sont en compète, on va dire. Donc toi, on te demande si d'abord l'illustrateur est disponible, combien de temps il mettrait pour faire des images, par exemple, et puis combien ça coûterait. Donc là, c'est la partie aussi un peu plus, on va dire, financière où tu dois jauger du projet et savoir combien tu vas chiffrer les choses en fonction des droits d'utilisation, etc. Enfin, un classique. Mais tu proposes donc plusieurs personnes de ton agence en faisant une sélection d'images. Tu vas montrer telle ou telle image parce que tu la trouves plus judicieuse. Donc, c'est aussi une bonne compréhension du brief de l'agence ou des attentes de l'agence. Et après, malheureusement, il y a aussi un truc qui a un coup de dé. C'est-à-dire que le rôle des agences là-dedans, il est toujours... qui peut être un peu nébuleux, c'est-à-dire que parfois tu comprends pas vraiment ce que t'as entendu et puis ce que t'as donné, puisque le résultat, le client finalement non, il préfère un tel ou voilà. Je me souviens qu'on s'est retrouvé avec un agent que vous connaissez très bien en compétition pour un gros projet et l'agence avec une agence hein, bien sûr et l'agence on était en deuxième, donc on n'a pas été choisi. On était les deuxièmes, voilà. Et finalement, l'illustrateur qui a été choisi n'a pas voulu faire la commande. C'était une grosse commande. Donc nous, on s'est dit, on va être, puisqu'on est deuxième, forcément, voilà, on n'était plus que deux en finale, parce qu'il y a des périodes éliminatoires aussi, il y a des éliminatoires.
C'est vraiment une compète pour dire un match de foot.
Voilà, c'est un petit peu ça. On te rappelle, ah bon, bah alors là, du coup, il y a plus que deux personnes, donc vous êtes en finale. Alors qu'est-ce que tu peux? Donc c'est souvent des phases de renégociation. Renégociation du budget.
Dans ce temps-là, les illustrateurs, les illustratrices, ils attendent.
Ouais, ils savent pas, ils se demandent.
Les nerfs,
c'est sûr. Et tu sais, il y a aussi pour la plupart des agents, il y a un investissement affectif dans ce truc-là, c'est-à-dire que tu sais que tu vas peut-être trouver un super boulot pour quelqu'un, tu vas le faire travailler, tu vas le faire des belles images, t'es content. C'est ce truc. Et puis soudain, quand tu l'as pas le truc, je peux t'assurer que t'es au moins aussi déçu que la personne qui a pas le projet. Ça, je peux te le dire. C'est aussi pourquoi quand tu le gagnes, t'es hyper content aussi d'avoir gagné le projet avec l'illustrateur. T'as vraiment ce sentiment de l'avoir fait avec lui.
Bah, j'imagine que quand vous êtes commercial, vous vous bagarrez pour y arriver. Donc du coup, le fait de perdre, genre, ça fait partie du jeu.
Oui. Et puis t'as des frustrations. T'as beaucoup de frustrations en fait. C'est pas des frustrations d'argent, c'est des frustrations de pas avoir pu mettre en avant ton illustrateur que tu sentais vraiment très bien. Donc dans cette compète dont je parlais où on était en compétition, on était le premier, donc on était plus en finale, celui qui a été choisi a refusé de faire la commande, donc on a pensé que ça allait être nous, et finalement non, l'agence par exemple a décidé de remettre une compétition recommencer. Donc on s'est retrouvé de nouveau en finale encore une fois et on n'a pas été choisi, et là
t'as les boules,
tu l'as un peu mauvaise. Bon, voilà.
C'est quoi un peu les... Tu parles de frustration, c'est intéressant. C'est quoi un peu les frustrations que tu as dans ce métier?
Elles sont diverses et variées, mais par exemple, si on parle du... c'est pas arrivé à avoir un projet que tu penses correspondre vachement bien à un illustrateur, par exemple. Ça, c'est hyper frustrant. Souvent, tu te dis, ah, mais pourquoi ils ont choisi cet univers? Il y a des gens qui sont... que tu sens plus à même de le faire, ou des univers où ta frustration, c'est le décalage par rapport à un brief de départ ou une volonté de départ, et à l'arrivée, tu t'aperçois qu'en fait le brief de départ, il est correspond. Enfin, le choix fait, il correspond pas au brief qui a été fait, tu vois. Je sais pas. On veut quelqu'un qui soit en couleur, etc. Avec, je sais pas, un univers qui est vraiment qui est explosif, etc.
Ah, puis tu t'aperçois un peu. Puis ça finit en 11 degrés,
ouais. Ouais, c'est ça. Et là, tu te dis, ah, ça c'est très frustrant. Mais ça peut venir d'autres trucs. D'avoir par exemple un illustrateur auquel tu crois vraiment beaucoup, t'adores son univers et t'arrives pas à lui trouver de travail. Mm-mm. Tu vois? Ça c'est terriblement frustrant aussi. Ça. Ça c'est terriblement frustrant. Du coup, c'est là où le dynamisme de l'agence, les ressources de l'agent peuvent faire une différence aussi. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être, tu vois, on parlait de gens qu'on peut prendre dans l'agence et on fait des paris aussi parce que rien n'est déjà écrit. C'est toujours quand même un pari. Enfin, t'as une idée, tu t'orientes un petit peu, mais soudain, tu te dis que ça peut ne pas marcher aussi, tu vois.
Quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est, tu sais, tu me parles de compète, de paris, j'ai l'impression qu'au final, c'est une sorte de grand jeu avec des enjeux, avec de l'argent, avec du relationnel et une sorte de grand jeu à taille humaine, quoi.
Mais ouais, je crois qu'il faut rappeler un petit truc aussi, c'est que les agences donnent pas du travail aux artistes, c'est-à-dire qu'en fait c'est un teamwork, c'est-à-dire que les artistes ne vont pas être consultés la plupart du temps par ces grosses agences ou ces gros clients, parce que les gros clients font eux-mêmes appel aux agences de communication qui elles-mêmes vont choisir dans les catalogues, c'est-à-dire que certains aussi en dénichent des artistes indépendants, ça arrive.
Ouais, ça arrive.
Mais c'est un teamwork, c'est-à-dire qu'en fait quand on parle de tendance et qu'il y a peut-être une idée de péremption du style par rapport à la tendance, c'est pas tellement du ressort de l'argent, c'est un peu le ressort de l'offre et de la demande aussi des clients et de justement de ce qui se passe en fait sur des cycles de 3 ans ou 5 ans. Qu'est-ce que t'en penses, comment tu le vis? Et puis parce que c'est une question que se posent les gens qui n'ont pas d'agent justement.
Bah oui, les agences, elles, de temps en temps, les agences de communication, de temps en temps, elles dénichent des gens. En fait, ça dépend de la curiosité des DA, tu vois, par exemple, ou des gens qui ont repéré un style. Et puis, mais de la même manière, c'est l'adéquation d'un choix qui a été fait par un DA avec le brief de départ. C'est-à-dire que les gens qui veulent se faire plaisir, il y a des DA parfois qui veulent absolument se faire plaisir sur un truc, mais en mettant quelqu'un qu'ils adorent mais qui est pas
c'est pas approprié,
ça va être source de frustration aussi.
Là c'est l'erreur de casting.
Ouais, c'est l'erreur de casting, mais elle peut venir d'une volonté de bien faire en fait. Souvent elle vient d'une volonté de bien faire. Après j'ai vu aussi un commentaire sur lequel je voulais rebondir, excuse-moi, mais c'était l'idée de combien de temps les gens restent dans les agences, le turnover dans une agence.
Ah oui, le turnover, ouais, qui existe.
Ça, c'est une question qui a l'air d'être un peu récurrente aussi, mais en fait tout dépend de l'agence. Nous, on sait que les choix qu'on fait, c'est des choix sur la durée. C'est-à-dire que quand on prend quelqu'un, on sait qu'on va le faire évoluer, enfin qu'il va évoluer avec nous, en tout cas, qu'il va continuer à travailler. On se dit pas qu'on va prendre quelqu'un pour faire un coup.
Ah oui.
Donc parce que ça, c'est aussi un peu le piège. On a des agents qui ont démarché nos auteurs, par exemple, en leur disant, bah écoutez, là, on a un projet pour vous. Qui va être très bien rémunéré, voilà, ça va être super, on va le faire, etc. C'est le moment, viens chez nous, tu vois. Et là, ça, c'est particulier, précisément en Angleterre. Il y a dans notre histoire un ou deux projets comme ça, enfin, une chose comme ça, où là, soudain, l'auteur, il est un peu partagé en se disant, mais là, on propose un gros projet, qu'est-ce que je fais, etc. Donc, nous, l'idée, c'est pas ça, en fait. C'est vraiment d'être avec les gens parce qu'on aime leur style, on sait qu'on va pouvoir les placer avec des clients. Et on sait qu'on va pouvoir les accompagner, qu'on va avoir un bon rapport avec eux. On a la chance d'être dans un métier où on peut encore choisir les gens avec qui on travaille, ce qui n'est pas le cas partout. Et ça, on est content de faire ça, en fait.
Ça fait plein de bonnes raisons de te battre, en fait, sur ces compétitions.
Ouais.
Alors, avant de passer aux questions des membres du Patate Club, j'en ai une toute dernière qui est une question un petit peu chargée, mais qui est aussi très pertinente en ce moment. C'est à l'heure des réseaux sociaux, hein, en ce moment, la puissance de l'autopromotion, de tous les outils qui sont en ligne pour pouvoir se mettre en avant. Et il y a des artistes qui ont des énormes communautés. Certaines personnes pourraient se demander à quoi ça sert d'avoir un agent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais toi, à ces personnes-là?
Ben, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait d'avoir un travail de qualité ne t'engage pas pour avoir une facilité de travail. Nous, on saura faire l'interface, on sait accompagner nos auteurs, ça peut bien marcher pendant un temps, et puis peut-être que dans 5 ans, les communautés seront plus aussi importantes que maintenant. C'est à géométrie variable, hein. ce que je peux dire, c'est vrai qu'il vaut mieux être accompagné pour les projets, parce que c'est plus confortable pour l'illustrateur, c'est plus confortable pour l'auteur, parce qu'il tombe pas de certains écueils, parce que et ceux qui ont une énorme communauté, ben c'est très bien, mais est-ce qu'ils travailleront longtemps, est-ce qu'ils vont bien travailler, est-ce qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, etc. Nous, là, on essaie de garantir à nos auteurs qu'ils travaillent dans une bonne condition, c'est pas toujours le cas, mais on essaye de faire en sorte que de pouvoir avoir des délais confortables, d'essayer de pas avoir des allers-retours incessants, de pas avoir des retours brutaux sur ce qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment de l'accompagnement, en fait.
Ouais. Puis vous restez sur la durée. Ouais.
C'est clair. Mmh. Moi, je vois le retour que j'ai avec mon agent. Coucou Nicolas, si tu nous regardes. C'est au-delà du rapport professionnel qu'on a, qui est super. Moi, je trouve que les 30% de commission que je donne à l'agence, c'est du temps que je me dégage. Et c'est hyper appréciable parce que j'ai pas pensé aux soucis budgétaires, j'ai pas à négocier. S'il y a le moindre souci de rapport humain, il va justement faire ce tampon dont on parlait tout à l'heure. Et je suis vraiment dégagé de beaucoup de choses et j'ai vraiment l'impression d'être complètement dans la créa et d'avoir un rapport finalement soit avec le directeur artistique ou avec le client directement qui est vachement sain parce qu'on ne bosse que sur la créa et on s'occupe pas du reste.
C'est plus apaisé effectivement, t'as moins de choses qui arrivent en interaction, le budget il est négocié au départ, tu sais que c'est posé, t'as plus de facilité pour le négocier alors que par exemple on sait que comme c'est des métiers compliqués, quand le client te dit non on a que ce budget là et toi tu sais que potentiellement tu peux avoir plus de budget pour cette chose là, c'est pas l'illustrateur qui va dire non, quand c'est une période un peu difficile il va tout de suite accepter il va même venir offrir le thé au client pour pouvoir avoir le projet et alors que nous on a aussi un aperçu de la limite où on peut aller aussi où on se fait pas piéger par des choses plus où justement l'émotivité va venir faire en sorte que tu vas être prêt à accepter tout et n'importe quoi, ce qui fait que très vite tu vas scier la branche sur laquelle tu es assis. Ça c'est super important pour les gens qui démarrent en illustration. C'est compliqué de dire ça parce que c'est toujours, il y a une nécessité d'avoir une rétribution pour son travail et une rétribution rapidement parce qu'on peut pas faire des images et pas être payé pour ça, mais il faut pas accepter tout et n'importe quoi, il faut se poser la question du budget. Il nous arrive de temps en temps qu'un illustrateur nous appelle parce qu'on le connaît d'une personne proche qui nous dit là j'ai telle demande et tu penses que je peux demander combien, ce genre de choses. Enfin, parfois ça nous arrive de donner un conseil, il vaut mieux donner un conseil pour que ça fasse du bien à la profession en général que baisser ou laisser la personne se débrouiller seule parce que après on peut pas faire ça tout le temps parce qu'évidemment sinon on serait submergé de demandes, mais ça c'est important. Après il y a aussi la connaissance du marché qui fait qu'on sait à peu près ce que ça vaut, parce qu'il y a le prix de la création en globalité et puis les droits afférents à cette création, les droits d'utilisation, et ça c'est important de les dissocier et qu'ils soient bien clairement écrits. Donc pour tous ceux qui se lancent par exemple, c'est important de bien préciser territoire, durée, support, quantité des supports, et différencier aussi si l'image elle va être utilisée avec de l'achat d'espace ou sans achat d'espace, ce qui fait une grosse différence parce que quand il y a c'est pas du tout le même prix, et ce genre de choses c'est très important.
S'il y a de la publicité forcément les droits sont beaucoup plus forts que s'il y en a pas du tout, quoi. Voilà.
Oui. Plus
on utilise l'image, plus on doit avoir des droits d'utilisation et plus on doit avoir des revenus qui viennent de ça, ce qui est logique. L'illustrateur,
si c'est utilisé une fois, ou si c'est utilisé pendant un an, ou si c'est utilisé sur un petit panneau dans un bus ou sur une grande campagne nationale, c'est pas le même prix, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc c'est type et nature du support, quantité, territoire, France, international, parce qu'évidemment une campagne monde c'est pas la même chose qu'une campagne France ou une campagne régionale, et puis durée, c'est-à-dire 1 an, 2 ans, et pensez à pas laisser vos droits très longtemps, parce que beaucoup de gens qui ne savent pas, les clients disent nous on veut les droits cédés, nous. Des gens qui disent droits cédés. Donc ça, les droits cédés, globalement, ça n'existe pas. Droits cédés, ça n'existe pas. Il faut oublier cette idée de droits cédés.
Vous entendez ce qu'on vous dit? Les droits cédés n'existent pas.
Ouais, ça, c'est super important. Droits cédés, ça n'existe pas. C'est des droits sur une durée nommée, quantifiable, année. Et souvent, il ne faut pas la donner sur 10 ans, par exemple, parce que une agence, elle doit avoir les droits. Oui, c'est un grand maximum.
C'est sur des gros, gros...
certains projets peuvent demander, mais ça s'explique, mais c'est très ponctuel ou très rare, mais la plupart du temps, il vaut mieux donner ses droits sur 6 mois, 1 an, 2 ans, parce que les droits sont renouvelables. Ça veut dire que c'est, oui, c'est sinon, ça, ouais, vous coupez la possibilité d'avoir de nouveau des droits sur la même utilisation.
Ouais. Pendant pas mal d'années, j'ai fait des élus pour une application. Ça a commencé en 2016. Les droits sont renouvelés tous les ans. Et aujourd'hui encore, c'est des petites sommes, mais tous les mois, je touche encore des droits. Et souvent, c'est un truc de débutant, mais on oublie que d'un côté, il faut facturer la créa et de l'autre, les droits. Et parfois, on a tendance à tout mettre ensemble.
Ouais, je précise qu'on parle de communication. Là, on parle de communication, corporate et compagnie. C'est vrai qu'en édition, c'est pas du tout...
Non, effectivement, on parle de communication, en effet. Ouais.
Petit à petit, on arrive un petit peu à la fin de l'émission. Et donc, c'est un peu le moment des questions des patates. Et tu mentionnais tout à l'heure que vous connaissiez bien justement le marché d'illustration. Il y en avait Nathalie Minot qui avait posé la question en amont. Il y a des questions dans le chat et puis on a reçu des questions en amont. C'est comment se porte le marché d'illustration joli TR. Vas-y, on boit pendant que je te pose la question.
j'écoute, je t'en prie.
Comment se porte le marché d'illustration en ce moment? Et je pense que ça... Ce qui sous-tend la question, c'est le fait que c'est un peu la crise économique, il y a l'inflation, il y a moins de budget pour les projets culturels. Mm-hmm. Donc toi, en tant que personne aux premières loges du marché d'illustration, quel est un peu le pouls du milieu en ce moment?
Le marché d'illustration se porte plutôt bien. Après, ça ne veut pas dire que les illustrateurs vivent mieux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de commandes, il y a aussi beaucoup d'illustrateurs. Donc c'est ça, on remarque justement les réseaux sociaux. Enfin, en fait, les réseaux sociaux, ça change beaucoup la donne.
On a perdu Laurent.
Les réseaux, évidemment, ça change beaucoup la donne parce qu'on voit beaucoup plus les images. Donc on a, tout le monde a son petit.
Il n'y a pas compris.
Pardon, Philippe.
Non, je t'en prie. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus les images. Il y a beaucoup plus d'images qui défilent. On en ingurgite plus, on en voit plus. Donc il y a plus de production forcément, mais les styles s'usent plus vite. Donc ça, c'est une chose un peu importante à voir. C'est-à-dire qu'on peut vite se faire copier, on peut vite se faire, etc. À la fois, je pense que le pour répondre à ta question de manière directe, je pense que le monde de l'illustration se porte bien. Mais c'est une population, les illustrateurs, c'est une population qui, je dis ça souvent aux agences quand il faut négocier, c'est une population où il y a beaucoup beaucoup de jeunes et il y a moins de vieux. C'est une profession qui est jeune en fait, où les gens, les illustrateurs sont jeunes. C'est compliqué de durer longtemps dans l'illustration. Il faut bien s'entourer, il faut être conscient de son style, il faut savoir le faire évoluer. C'est ce genre de choses, ça c'est super important. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire que je serais curieux de voir la moyenne d'âge de en regroupant tous les illustrateurs et savoir comment ils vivent et quels sont leur âge, tu vois. Voilà, parce qu'il y a aussi une idée de il est jeune, il fait un style qui est dans la mode, etc., qui est un peu dans l'air du temps, donc on va le prendre. Puis quand le style est plus là, qu'est-ce qu'il fait l'illustrateur? Est-ce qu'il a besoin de reconstruire son style? Est-ce qu'il a besoin de... Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Mais donc oui, il y a plus d'illustrateurs, il y a plus de demandes en illustration, c'est bien. Mais l'illustration, c'est un médium où il y a plus d'identité que la photo, par exemple. On est un photographe, on prend souvent cet exemple aussi dans les discussions, c'est qu'un photographe, il peut travailler pour une marque et pour son concurrent de manière directe. En revanche, un illustrateur, c'est fini quand il travaille pour une marque, il est grillé pour la marque concurrente, par exemple. Et grillé pendant 10 ans. Donc l'impact n'est pas le même. C'est pour ça que, par exemple, dans les négociations, quand tu travailles pour une marque d'alcool ou pour un grand magasin ou pour ce genre de choses, on a des illustrateurs à l'agence qui ont travaillé pour certains grands magasins à Paris et qui sont un peu grillés pendant 10 ans. Ils peuvent plus travailler avec les autres grands magasins parce qu'ils ont été trop marqués dans cette veine-là. Enfin, il y a
plein de petits détails comme ça qui...
Parfois c'est des bonnes commandes et parfois non. Mais si tu travailles pour une marque, je sais pas, une marque d'alcool pour quelque chose de ponctuel, ça n'est pas forcé que tu aies un gigantesque bénéfice de ça. Mais en revanche, tu sais que après pour les concurrents, tu peux oublier quoi. Voilà. Ouais, donc ouais. Voilà, c'est
bien de le dire.
Mm-hmm. Ouais. Alors, on avait Myriam Gabriel qui
on
avait aussi
inondé de questions.
Ouais, j'en sélectionne une parce que en réalité, t'as répondu à déjà pas mal de questions qui avaient été posées en amont. Donc, du coup, je sélectionne. Et il y a une où elle dit certaines agences disent qu'elles ne prennent que des illustrateurs qui ont déjà pas mal de clients. D'autres, au contraire, aiment identifier des nouveaux talents. Quelle est la position de Costume 3 pièces?
La position, elle est simple. En fait, nous, on part du principe que c'est l'univers qui prime. En fait, s'il y a une adéquation avec nous, c'est un univers qui nous convient. C'est ça le premier critère pour prendre les gens à l'agence. La deuxième chose, c'est connu, pas connu. L'important, c'est la qualité de son travail. On a pris François Roca, par exemple, qui est connu et qui fait l'illustration depuis très longtemps. Mmh. Et on a pris récemment une jeune auteure qui s'appelle Lou Bénèche, par exemple, et qui démarrait. Donc, après, les clients, si un illustrateur a un client avant de commencer à être intégré à l'agence, il le conserve. On ne va pas prendre son client.
Ouais.
S'il a l'habitude de travailler avec 4 marques ou 10 marques ou je sais pas, une agence, une boîte en particulier, ça reste son client. Nous, on n'a aucun intérêt nous, on vient essayer d'ajouter des choses, pas en enlever à l'illustrateur, en fait. Il conserve ce qu'il a déjà. C'est logique.
Ouais. Il y avait une autre question. Travaillez-vous uniquement avec les artistes de l'agence ou vous arrive-t-il également de faire appel à des talents extérieurs?
De façon ponctuelle.
Ça, c'est très, très intéressant parce que ça, c'est une question... c'est une question très intéressante, celle-là. Je sais pas qui l'a posée.
Allez, c'est
bravo.
Parti. C'est toujours Myriam Gabriel. Elle était au taquet.
Eh ben, c'est une très très bonne question. Nous, on travaille avec des auteurs de notre équipe. On veut pas travailler avec des gens dont on ne représente pas le travail.
D'accord.
Ce qui fait que c'est intéressant parce que ça montre une fidélité par rapport à nos auteurs, un respect de on les a pris, donc on va pas faire de proposer d'autres. Ah, il y a personne de l'agence qui marche, bah on va te proposer quelqu'un qui est pas représenté pour un coup. Là encore,
oui,
une fois, c'est pas une manière de faire chez nous. Nous, on a une éthique de travail. L'agence, c'est ça. Donc c'est un des domaines où on peut voir l'éthique de travail. C'est que non, on refuse ce genre de choses. On sait qu'il y a certains agents qui ont leur propre équipe et qui n'hésitent pas à présenter d'autres artistes, et on trouve ça pas fair play, en fait. Pas fair play du tout. Voilà, c'est tout.
Moi, je peux parler de ma petite expérience, alors, dans ce cas-là. Parce qu'en fait, j'ai été recruté comme ça par Nicolas.
Ah oui, c'est vrai.
Et non, mais en fait, je vais préciser comment. En fait, c'est simplement une reco d'un illustrateur qui était déjà dans l'agence, hein, Yacine. Big up Yacine, je te remercie pour ce coup de pouce. Et du coup, en fait, j'ai fait une commande ponctuelle, en fait, pour remplacer Yacine sur un travail pour un client pour l'illustration.
En pixel art, ouais.
Et en pixel art, et ça s'est très bien passé. Et du coup, bah là-dessus, Nicolas et Michel m'ont demandé de continuer avec eux. Voilà, ça s'est fait comme ça.
Okay,
donc c'est particulier, hein, c'est pas chercher quelqu'un.
Mais c'était il y a 15 ans, je crois.
C'était en 2006, 2007, ouais.
C'est un cas particulier, sans doute qu'ils avaient déjà repéré aussi ton univers, peut-être. Enfin, je sais pas. Je poserai la question à Nicolas quand je le verrai.
Oui, voilà.
mais en réalité, voilà. Après, chacun.
Mais du coup, moi, ça m'a permis d'être avec eux et je suis avec eux depuis toutes ces années, quoi. C'est.
Ouais. Mais non, mais ça peut arriver aussi comme ça. Mais nous, c'est quelque chose qu'on s'autorise pas, en l'occurrence. Voilà, c'est tout. Juste, ça fait partie des dons de l'agence. On en a quelques-uns comme
bien
ça.
Sûr.
Ouais. Voilà. On a eu une discussion avec un agent il n'y a pas très très longtemps sur là-dessus et voilà.
Ah oui, on peut faire une toute petite parenthèse. On a un petit peu le temps sur les agents associés. Si tu peux nous parler concrètement,
oui,
voilà, en quelques mots.
Mais,
à quoi ça sert? Qui sont-ils?
Alors, les agents associés, c'est le regroupement des agents d'illustrateurs et photographes plutôt parisiens, mais globalement parce que ça se situe ici, mais et ça permet de défendre les droits d'auteur, de défendre le métier d'agent, mais aussi nos auteurs. Donc c'est intéressant parce que c'est un bureau qui est assez actif. La présidente, c'est Léonore Charret, qui a une agence de photographes, mais l'illustration est bien représentée au sein du bureau, parce qu'il y a des agences comme La Suite, La Slow Gallery,
Créasenso,
etc. Enfin, tout le monde est adhérent à cette agence, à ce syndicat, c'est un syndicat. Et ça permet aussi d'essayer d'imposer des espèces de règles de conduite pour un peu tout le monde, en tout cas tous les agents, pour essayer de travailler un peu à l'unité, d'essayer de se défendre sur certaines choses, les droits d'auteur. Ça permet aussi d'avoir le concours Jeune Talent, tiens, par exemple, qui est quelque chose de super intéressant. Il y a un prix Jeune Talent une fois par an qui permet aux auteurs de proposer leur travail et puis d'être remarqués. Et les prix, c'est pas d'offrir une synthique ou un séjour aux Bahamas, mais plutôt d'avoir une soirée et une expo. Ça, c'est quand même pas mal, tu vois.
Et si on a un vieux talent pas connu, est-ce qu'on peut participer?
Ah ben, vous allez voir ça. Il y a des règles d'inscription pour ce concours, donc il faut regarder. C'est vrai.
Mais qui dit, je suis trop vieux.
Ouais, c'est ça. Ben il y a l'idée de donner un accès à des jeunes qui l'auraient pas forcément eu à quelque chose d'assez professionnalisant, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une rencontre et une lecture portfolio où c'est compliqué, parce que je vois, nous, le nombre de dossiers qu'on reçoit, on a très peu de personnes qui viennent nous montrer leur portfolio parce qu'on a peu de temps pour ça. Il faut vraiment, quand les gens viennent, on veut vraiment savoir qui ils sont derrière, on est dans l'optique de les prendre ou ce genre de choses. Donc là, ça permet d'avoir tous les agents de Paris en photo illustration qui viennent voir ton dossier, qui viennent te donner des conseils, te donner des idées, te remarquer, et potentiellement qui peuvent aussi te prendre. Voilà. Et à l'issue de ça, celui qui est gagnant, il a une exposition dans une galerie à Paris. Et voilà.
C'est
donc
pas
ça,
rien.
C'est plutôt bien, ouais. Ouais, ouais. Mm. Donc c'est ça. Il faut encourager tous les gens qui nous écoutent ou tous les jeunes à essayer de s'inscrire à ce prix.
Mm. Alors on parlait de collègues, concurrents, concurrents, collègues. Bah voilà, les agents associés mm-hmm. font partie du décor.
C'est vrai, et c'est important qu'il soit là, parce que c'est un vrai interlocuteur. Le ministère de la Culture l'a reconnu, les agents associés récemment. Ils les agents ont été convoqués, enfin le bureau a été convoqué auprès du ministère, au ministère, et pour un peu une discussion et pour voir. Et justement, c'est ce côté professionnalisant qui intéresse le ministère de la Culture, parce que ça fait une espèce de comment dire, de prolongation ou de comment dire. Ça permet aux étudiants qui sortent des écoles d'avoir tout de suite un contact et d'être un peu référencé, ou d'avoir un contact, d'avoir une prise avec la réalité, parce que souvent quand on sort de l'école, on ne sait pas forcément comment est la réalité du marché, comment est la réalité du métier d'illustrateur, je veux dire en termes financiers, etc. Là, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu solide comme ça, et ça permet aussi aux agents de pouvoir discuter de nos problématiques et d'avoir essayé de trouver les résoudre.
C'est clair.
Voilà.
C'est clair. Est-ce que il y a des questions brûlantes pour les personnes qui sont dans le chat? On a encore quelques minutes
ensemble.
Que vous
ensemble. Auriez posé avant, qu'on n'a pas abordé, faites un copier-coller.
Un truc que vous dites, punaise, c'est trop trop important, il faut que je pose la question à Philippe, là, maintenant, tout de suite.
Posez les questions pendant ce temps-là, je vais vous dire, ce qui est important aussi, c'est de bien travailler son Instagram, parce que c'est devenu un réflexe chez les agences, c'est
les
important.
Les agents regardent le nombre de followers et les books, pas forcément le nombre.
Pas les agents surtout, mais plutôt les...
Je les agences de com, hein,
les agences de publicité, elles regardent immédiatement quand on parle d'un dossier, touc. Hop, tout de suite, c'est Instagram pour regarder le mur de la personne, voir comment il est organisé, et les images, tout de suite, elles frappent. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment, faut faire attention à pas mettre tout et n'importe quoi. C'est pas le cahier de brouillon, l'Insta, c'est quelque chose qui doit être travaillé.
Ouais, tu dis qu'il faut un minimum de stratégie de communication dessus.
Oui, il faut un minimum d'attention et il faut faire attention à ce qu'on montre.
Plus que le portfolio, tu dirais?
En fait, actuellement, le réflexe, c'est l'Insta, ouais. C'est regarder les images sur Insta. Les gens vont plus trop sur les sites, ils vont tout de suite ils ont le téléphone, enfin, tu sais, t'as ton réflexe, tu prends ton téléphone, touc, t'es sur l'Insta de la personne. Oui. Ouais.
Le site, donc, est en fait un moyen d'aller plus deep dans le travail de quelqu'un.
C'est le premier réflexe,
on va pas se prendre la tête, je regarde le mur et
c'est
voilà,
ça.
Sur Insta.
C'est l'étape 2, c'est le site, mais ce qui est important, c'est de travailler son Insta pour avoir des images qui sont à la fois actuelles, mais en même temps de qualité. On a beaucoup d'illustrateurs qui mettent ça un peu comme une espèce de journal quotidien. Aujourd'hui, j'ai fait des dessins, je les mets, et en fait, il faut penser à synthétiser. Il vaut mieux montrer 3 dessins super bien que vous revendiquez, plutôt que de montrer 10 qui montrent une profusion de travail. Alors après, ça sert à ça, les carousels, etc. Ça permet de mettre des choses, mais c'est important d'avoir un Insta qui soit bien tenu, bien voilà. C'est pas toujours évident. Je dis ça, bien tenu, c'est comme une chambre. Hein, ta chambre, tu vas me ranger ton Insta tout de suite. Mais oui. c'est important d'avoir une, c'est la vitrine maintenant, en fait, plus que portfolio, en effet. Ouais.
Ouais, ça dépend de l'objectif. Si on a des très bons amis illustrateurs et illustratrices qui utilisent leur Insta pour faire de l'expérimentation et montrer plutôt des choses un peu personnelles. Et puis, si vous voulez taper dans l'œil d'un agent ou travailler dans tout ce qui est beaucoup plus commercial, mieux vaut avoir une chambre bien rangée sur Instagram, quoi.
C'est ça, ou avoir une double entrée. T'as des illustrateurs qui ont des doubles entrées avec un travail plus perso de recherche, de qui est plus arty, plus où on se permet plus de choses, etc. Et t'as des choses un petit peu plus. C'est important.
Alors, tu auras remarqué, Philippe, que du coup, t'as parlé d'Instagram. Donc, on a des personnes qui t'ont balancé leur Instagram.
J'ai vu. Pensez à le faire sur le contact, @costumeprof.com, parce que ça tombe dans tous nos mails respectifs. Donc, ça, c'est forcément. Et puis, faut savoir que les books qui sont envoyés à l'agence, on les regarde tous. Donc, c'est important. C'est-à-dire qu'on passe pas, ils sont tous lus, ils sont tous regardés. On va tous sur l'Insta des gens, on va tous sur leur site, on regarde, on fait pas toujours des réponses.
Pas toujours
réponses
parce que ça prend du temps.
Et c'est-à-dire comme
mais c'est regardé.
C'est regardé. Comme on n'a pas un serveur où on appuie un bouton t'as certaines agences qui ont un petit système. Hop là, c'est répondu. Hop, c'est répondu comme ça.
Ouais, un truc un peu automatique.
Non, nous on le fait malheureusement pas. C'est pas on répond.
Non, c'est heureusement. C'est bien. Ça fait tellement mal quand on reçoit une réponse automatique. C'est froid.
Ben, c'est ça. Ouais. Non, on rappelle de temps en temps les gens. On les a de temps en temps au téléphone et puis. Mais on a quand même beaucoup de travail. Si on passait notre temps à faire ça, ce serait un contre-productif.
C'est sûr. Ouais.
Toute dernière question.
Je trouve qui je trouvais pertinente de la part d'Émilie. Adopter la vie parisienne est-il incontournable pour les relations avec une agence? Je me souviens que moi, quand j'ai déménagé à Paris en 2013, j'avais dans mon idée le fait qu'il fallait être au cœur de l'industrie, de tout ce qui se faisait, et que c'était à Paris. Mais on a en effet des personnes dans la communauté qui sont en province, entre guillemets. Mm-hmm. Et donc, du coup, la question,
c'est totalement faux. Il faut se retirer ça de la tête. En fait, un illustrateur, il peut travailler d'où il veut. Nous, on a beaucoup d'illustrateurs à l'agence qui sont de partout en France, même de l'étranger. On a des illustrateurs qui sont à Berlin, par exemple. On a une illustratrice française qui est à Berlin, qui vit à Berlin. Ça pose aucun problème dans son travail. Et quand il est nécessaire de venir, eh bien, elle vient pour un boulot et on inclut son déplacement dans le prix du travail. C'est pas un souci. Donc, on a des gens qui sont au Havre, on a des gens qui sont à Marseille, on a des gens qui sont on a des gens qui sont à Nantes. Il faut absolument pas avoir ça en tête. Non.
D'accord. Il y a une logique pour laquelle les agences d'illustrateurs sont principalement à Paris. Ça coule de source.
Oui, la logique, elle est parce que elle est évidente, c'est qu'en fait il y a les grandes agences de pub qui sont ici, donc avoir des il y a un truc qui est aussi pré-Covid, mais on allait beaucoup en rendez-vous en agence, on rencontre les gens,
on leur montre des choses,
on mange avec eux, tout simplement.
Ouais, regarde ça, c'est génial, oh là là.
Ouais, c'est ça, il faut absolument. Non, c'est moins glam que ça. Ouais. La vie rêvée des agents. Non, pas du tout, en fait. Hein. Ouais. Ça c'est fort. Non, pas nous. Mais c'est vrai qu'on va quand même rencontrer, présenter les looks, en parler, etc. Mais ceci explique cela. C'est aussi là où il y a les grandes marques. C'est là où il y a un bassin de possibilités, en fait, en quelque sorte. C'est là où il y a un réservoir de possibilités plus grand.
Ouais, tout à fait.
Je parlais du rôle de l'agent aussi. On est là aussi pour intervenir. Je pensais à une petite anecdote il y a peu, pour intervenir sur les cas de piratage d'images, par exemple.
Mmh. Ah oui. Mmh.
Ah oui.
C'est un sujet qu'on n'a pas abordé, ça aussi.
Non, on l'a pas abordé. Puis en plus,
t'as l'air chaud.
On n'a pas parlé des intelligences artificielles non plus.
Oui, c'est vrai.
Non, quoi, c'est ton nez qui se parle.
Ouais. Mais ça, je pense tout le monde. Mais c'est important de voir ça. C'est-à-dire que l'agent, il est vigilant pour regarder un petit peu, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de copies des images de style trop proche, etc. Et nous on se pose la question, même à l'intérieur de l'agence, parfois des images des illustrateurs qui ont un univers qui pourrait se rejoindre, ou parfois une image elle est un peu similaire. Il nous est arrivé plein de fois de faire un point avec les illustrateurs, de les faire se rencontrer pour que éventuellement il n'y ait pas de d'ambiguïté sur la production des images. Donc on les donne pas à l'un et à l'autre. On essaye de faire en sorte que ça, c'est aussi de l'accompagnement d'auteurs. C'est important de dire, là en ce moment tu te diriges vers un style où on le voit partout, il faut attention, il faut peut-être trouver une singularité différente, il faut que tu recherches dans ce que tu sais faire ou ce que tu aimes faire, et voilà. Là dernièrement on a eu un cas d'images piratées, mais ça, tous les agents sont confrontés à ça, des images reprises in texto, colorisées un petit peu différemment et proposées à une agence qui les a mis sur les réseaux sociaux, etc. Donc le rôle de l'agence, c'est aussi de contacter la personne qui a fait le entre guillemets le faux, et puis contacter l'agence qui a utilisé, qui a payé cette personne qui a fait le faux pour réclamer des dommages d'intérêt ou pour faire enlever les images ou pour faire ce genre de choses. C'est vrai que c'est un volant aussi qui est minime dans notre activité, malheureusement. Enfin, heureusement.
Oui, mais quand même, ouais.
Mais qui est important aussi de signaler.
Vous êtes les justiciers et l'illustration.
C'est un peu les défenseurs de la création des auteurs, en fait, en quelque sorte. Ouais, l'auteur peut pas être partout.
C'est un peu comme un avocat, hein, mine de rien. Sur certains sujets, ça peut le devenir.
Et de la même manière que pour les agents associés, quand c'est les agents associés qui parlent auprès des institutions, il y a un poids qui est plus important que c'est une agence, que si c'était une agence. De la même manière, il y a un poids plus important quand c'est l'agent qui parle auprès de quelqu'un qui est un faussaire. Ou
c'est pas juste défendre les agents, c'est aussi défendre les créateurs qui sont représentés.
C'est exactement ça. Et auprès de quelqu'un qui va pirater une image, c'est important que quelqu'un qui a une assise et déjà une forme de enfin, vous m'avez compris, qui peut agir auprès de la personne.
Ouais. Voilà. Génial. Bon, merci Philippe. C'était hyper enrichissant. C'était ouf.
On aurait pu parler 4 heures.
On a pu faire un bon.
C'était faisable.
J'ai l'impression que vous dites ça à tous vos invités, moi. Vous avez les coquins.
Bah oui, mais on a des invités qui ont plein de choses
à chaque fois,
dire,
ça tabasse. Hein. À chaque fois, c'est tout. C'est comme ça, c'est tout.
Et réinvitez Costume 3 pièces. La prochaine fois, on reparlera d'autre chose.
Bah écoutez, avec grand plaisir. Hein,
voilà. On le note.
Le retour des gardiens des clés de 2.
C'est ça. C'est ça. Ouais. Ben merci, Philippe, pour ton temps aujourd'hui. C'est très appréciable.
Merci pour vous. J'espère que j'ai pas trop parlé.
Ah ben non, on est là.
Non,
pour
mais tu vois pas
parler.
Assez parce qu'ils en redemandent. Alors.
C'est ça.
Non, super. Pour je tout pense qu'on on a abordé quand même les points essentiels pour au moins une entrée en matière avec l'équipe of the Keys et c'était génial de commencer avec toi.
Oui, on aime bien. On a déjà fait des épisodes avec des agents par le passé, mais en fait, comme tu l'as dit,
on peut aller toucher les questions.
Chaque agent a sa couleur un peu différente, et puis on peut aller plus ou moins en profondeur. Et c'est bien. Il y a eu des trucs assez techniques avec toi, donc c'était cool.
Ok. Dispo si besoin de nouveau. Voilà.
Vous entendez les gens? Dispo si besoin.
Si besoin. Okay.
Ouais. Et puis maintenant, on peut mettre un visage sur Costume 3 pièces, justement, vu que vous mettez un peu
en retrait. Mais on est 6 visages à l'agence. Hein. Il y a Maro, il y a Guy Prisca, bien sûr. Je vais pas citer.
Tu peux les citer, t'as le droit.
L'équipe Costume 3 pièces, voilà, c'est bien, mais je suis pas seul.
Alors, fais un coucou.
C'est ce qui est important. C'est ça qui est important.
Et bravo, hein. Quel catalogue. C'est impressionnant.
C'est gentil, on prend les compliments.
Non, mais il y a des gens qu'on apprécie énormément.
Top.
Bon, c'est gentil. Merci à vous, alors.
Merci à toi. On vous souhaite à tous une très bonne journée et on vous dit à très, très bientôt. 1, 2, 3 et c'est parti. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées.
N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux.
Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast.
Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif-podcast.
Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message.
Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.
En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas,
Everything is connected!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.